Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Aujourd'hui sur CNews, état de santé stable pour le chanteur Kenji Girac qui a été blessé par arme à feu cette nuit en Gironde dans un campement de gens du voyage. Les circonstances de ce tir restent floues. L'hypothèse d'un accident domestique est dans un premier temps évoquée. Les auditions de ses proches ont commencé cet après-midi. On fait un point complet dans un instant sur les toutes dernières informations concernant l'enquête. On rejoindra aussi nos équipes sur place devant l'hôpital de Bordeaux. Gabriel Attal était à Nice ce matin pour vanter les mérites des internats éducatifs qui sont censés permettre aux jeunes qui perdent pied de se reprendre avant de sombrer dans la délinquance. Un dispositif qui est en cours d'expérimentation. Est-ce que cela peut fonctionner pour ceux qui sont encore rattrapables? On va en débattre aussi ce soir. Enfin, on évoquera l'insupportable montée de l'antisémitisme dans notre pays. Le maire de Mion, tout près de Lyon, il s'appelle Claude Cohen, a présenté sa démission à la préfecture après une série d'actes impunis qui le visait. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. On va évidemment d'abord commencer par le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain. Simon, bonjour.
Bonjour Laurence. Le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. En première instance, Mohamed Graieb et Chokri Chafroud avaient été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. Le 14 juillet 2016, l'attentat de Nice avait fait 86 morts. Le gouvernement fixera de nouvelles règles à partir du 1er juillet concernant l'assurance chômage. L'objectif de ces nouvelles mesures est d'atteindre le plein emploi et de favoriser le retour au travail des chômeurs indemnisés, indique un communiqué du ministère du Travail. Et puis les débats viennent tout juste de commencer au procès pénal historique de Donald Trump à New York. Après une semaine délicate avec la sélection des 12 jurés, eh bien les procureurs vont présenter désormais les chefs d'accusation au jury. L'ancien président américain est jugé dans une affaire de paiement dissimulé visant à acheter le silence d'une ancienne star du X. Un procès qui intervient à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle américaine.
Merci Simon Guillain, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30 pour l'actu. Louis de Ragnel est là, bonsoir Louis, vous
bonsoir,
allez bien?
Bonsoir Laurence, je vais très très bien et vous?
Très très bien. Rachel Kahn, bonsoir.
Très content.
Bonsoir Laurence.
Merci, vous êtes heureuse d'être là aussi?
Oui, bah, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à combien?
À côté de vous, de 8.
Bonne fête de Pâques à vous.
Je suis à combien, moi?
Bon Pessard.
Merci beaucoup.
On est avec Reda Bellage, porte-parole Unité Île-de-France.
Bonjour.
Bonsoir à vous. Policier, François Pupponi, ancien député.
Bonsoir Laurence.
Vous allez bien aussi?
Très bien.
Éric Revel qui fait son grand retour dans l'émission après des semaines et des semaines d'absence.
Vous avez une très jolie coupe de cheveux.
Merci. Alors vraiment, c'était le truc à ne pas dire pour commencer l'émission. Voilà, on ne parle pas des cheveux. C'est interdit.
Ah bon?
Ah ben oui. Comment ça s'appelle d'ailleurs le délit de,
oui,
de discrimination capillaire?
Oui, oui.
On en parlera en hors plateau si vous voulez, très cher Eric.
Bon, en tout cas, ravi de vous retrouver
pour cette
nouvelle saison, non, semaine, pardon, de saison. Non, c'est pas le début de la saison. Oui, c'est peut-être ça. Avant d'entrer dans les débats, parce que je trouve très intéressant ce qu'a fait Gabriel Attal ce matin pour tenter de lutter contre la violence des mineurs. Il était dans un internat éducatif. Ce qui est très drôle, c'est d'écouter les enfants. Louis Dragnel me l'a signalé dans l'après-midi. Est-ce que tu as écouté les enfants? Oui, ils sont tous. Mmh. C'est très drôle, leur répartie. On va écouter ça. Mais d'abord, j'aimerais qu'on prenne des nouvelles de l'état de santé du chanteur Kenji Girac, qu'on aime tous beaucoup, que vous avez dû écouter, Eric, à la Starac.
Oui.
C'est bien ça?
Oui, bien sûr.
The Voice. Ah, The Voice. C'est presque ça.
The Voice.
En tout cas, The Voice. Voilà,
The Voice.
Sur Prime de TF1. Ouais. On va faire d'abord le point sur son état de santé avec Sarah Fenzari, puis on ira sur place devant le CHU de Bordeaux.
C'est aux alentours de 5h30 ce lundi que les gendarmes ont été appelés sur l'aire des gens du voyage de Biscarros dans les Landes pour un homme grièvement blessé par balle au thorax. La victime, le chanteur Kenji Girac, est transporté d'urgence dans un hôpital de Bordeaux. Conscient, le chanteur a commencé à parler aux enquêteurs et évoque, selon une source proche de l'enquête, un accident domestique. Il serait la conséquence d'une mauvaise manipulation de l'arme de la part de l'artiste qui a reçu une balle au niveau de la poitrine avec un point de sortie dans le dos, une plaie grave évoquée par les pompiers. Selon une source proche du dossier à CNews, l'arme de poing 9 mm a été retrouvée dans un buisson, sans chargeur dessus ni à proximité. Des prélèvements ont été faits sur sa conjointe, la même opération sera effectuée sur la victime. Des proches de Kenji sont actuellement entendus par la police. Son audition à lui ne devrait pas se faire avant demain.
Et on le comprend au regard de son état de santé. Augustin Donadieu, Florian Paume, bonsoir à tous les deux. Vous êtes devant le CHU de Bordeaux. Vous avez échangé avec des proches de Kenji Girac et les nouvelles sont ce soir plutôt rassurantes, c'est cela ?
Oui, effectivement, Laurence. Alors, un échange plutôt bref avec la maman de Kenji Girac, son agent également. Tous deux nous confirment qu'aucune communication officielle ne sera faite aux médias, mais ils m'ont confirmé qu'effectivement, le pronostic vital de Kenji Girac n'est à cette heure-ci plus engagé. Cependant, le chanteur reste hospitalisé dans cet hôpital de Haut-l'Évêque, au sud-ouest de Bordeaux, juste derrière moi. Il restera hospitalisé durant plusieurs jours. Tous ses proches, toute sa famille vient le voir, nous les voyons, le beau-père de Kenji Girac à l'instant vient de passer juste à côté de nous. Nous avons également échangé quelques mots avec ce dernier. Pendant ce temps-là, les enquêteurs poursuivent leur enquête. Je vous le rappelle, une arme a été découverte sur cette aire d'accueil des gens du voyage où se trouvait Kenji Girac. Une arme dépourvue de son chargeur, jetée dans un buisson. Les enquêteurs vont tenter de savoir si c'est cette arme qui a blessé Kenji Girac cette nuit au niveau du thorax. Une information dont nous avons eu confirmation par des proches, c'est que cette balle est passée à 2 mm de la colonne vertébrale du chanteur. Mais encore une fois, ce dernier n'a plus son pronostic vital engagé. Des proches de Kenji Girac sont actuellement entendus. Kenji Girac, lui, ne l'a pas encore été, même s'il a parlé aux pompiers et à quelques gendarmes. Il sera probablement auditionné dans les prochains jours.
Merci beaucoup Augustin Donadieu et Florian Paume sur place à Bordeaux. François Pipponi, encore beaucoup d'incertitudes évidemment autour de ce qui s'est passé, mais c'est un miraculé là, parce qu'à 2 mm de la colonne vertébrale.
Une balle qui rentre par le thorax, qui sort par le dos, ça aurait pu toucher un organe vital, ça aurait pu briser la colonne vertébrale, donc il pourrait être mort, soit paraplégique. Donc effectivement, il est miraculé. Ça a l'air d'aller mieux, j'espère pour lui, mais oui, effectivement, c'est un miraculé.
Reda Bellage, alors c'est une zone gendarmerie, donc évidemment, ce n'est pas la police qui mène l'enquête. Néanmoins, il y a quand même tout un faisceau de présomptions qui laisse planer le doute sur ce qui a pu se passer cette nuit.
Ah, écoutez, il y a plusieurs pistes qui peuvent être... on peut constater plusieurs pistes, mais je pense qu'il est important dans ce genre d'affaires, puisque à partir du moment où vous touchez à une personnalité, les gens veulent des réponses tout de suite. Souvent, les médias aussi veulent des réponses de suite, parce qu'il y a beaucoup de fans, c'est quelqu'un qui est apprécié par le public français. Maintenant... il va y avoir une enquête de voisinage, on va pousser l'enquête, parce que, alors côté police, en général, quand vous avez, même si c'est moins grave, vous avez des affaires quand même de homejacking, nous, automatiquement, ce sont les grosses PJ qui sont saisies. C'est un désaccord avec le parquet. À partir du moment où il y a usage d'une arme, quel que soit le délit et que c'est une personnalité, automatiquement, c'est une PJ. C'est parce que le parquet a cette volonté d'aller très, très vite, parce qu'il y a une attente des concitoyens.
Oui, une attente et médiatique, et là, en l'occurrence, des fans de Kenji Girac qui sont nombreux. Rachel Kahn, c'est une personnalité vraiment solaire qui est un des piliers des Enfoirés. Je parlais de l'explosion qu'il a connue dans The Voice, donc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très attachant.
Oui, très attachant, très populaire, effectivement. Puis ce que j'aime, c'est qu'il a fait connaître, il a ouvert les portes aussi à cette musique. Il a une vraie signature, alors, inspirée de ses traditions et du flamenco. Et dans le même mouvement, il a travaillé avec Gims, avec Vianney. Moi, j'adore cet artiste très polyvalent. Il est extrêmement touchant et aussi très engagé pour des causes humanistes.
C'est vrai ?
Oui, notamment pour les enfants, les enfants défavorisés aussi.
Bon, ça c'est bien d'avoir un grand frère. Louis de Ragnel, pas d'infos spécifiques.
Non, il y a des questions quand même, des questions autour de ce qui s'est passé. Alors oui, l'enquête déterminera ce qui s'est réellement passé, mais il y a quand même des détails qui interrogent. Quand les forces de l'ordre arrivent sur place, ils sont accueillis de manière assez froide. C'est-à-dire que les gens qui étaient autour de Kenji Girac, en fait, ont empêché les gendarmes de venir. Puis ensuite, on trouve pas. Enfin, c'est quand même étonnant. On trouve un pistolet dans un buisson. Donc la thèse de l'accident, je pense que enfin on peut avoir des doutes et on attend de voir ce que ça donnera réellement, puisque en plus l'arme, on a retrouvé l'arme sans le chargeur. Est-ce qu'il y avait une volonté de retirer le chargeur pour qu'on puisse pas identifier les balles? Il y a quand même un certain nombre de questions. La thèse de l'accident domestique, on peut ne pas y croire là par rapport aux éléments dont on dispose aujourd'hui On peut avoir des questions.
On va attendre le déroulé de l'enquête. Éric Revel, peut-être quelque chose à ajouter.
J'allais dire ce que vient de dire justement Louis Dragnel, donc je partage le propos. C'est vrai que c'est assez curieux quand même. Parce que si c'est un accident domestique, pourquoi est-ce qu'on retrouve le pistolet dans un buisson comme s'il avait été balancé? Bon.
Mais, c'est pas forcément celui-là.
C'est pas forcément celui-là. Mais juste, Rachel a raison de mettre en avant. Cette musique qui pour moi est la continuité aussi de Django Reinhardt, de Gypsy King, de Manitas de la Platas, vous vous souvenez, tous ces gens qui nous ont fait rêver et qui ont fait d'ailleurs le tour du monde. Voilà, bon, il faut lui souhaiter un prompt rétablissement, évidemment. Bon, espérons que tout ça tournera pas à une confusion totale autour d'une enquête. Bon, alors après, on sait aussi que ce sont des communautés extrêmement fortes, très solidaires entre elles. Ce monde qui est souvent en souffrance, qui est celui des gitans. Voilà, de là à imaginer qu'il soit passé quelque chose d'un peu plus compliqué et que Kenji veuille protéger des gens, bon, voilà, une hypothèse parmi d'autres.
Hein. Écoutez, voilà. Vous avez raison, l'enquête nous le dira.
Bien sûr.
J'aimerais juste qu'on écoute Fabien Lecoeuvre, qui est spécialiste de la chanson française, qui nous dit quelques mots sur Kenji.
C'est un artiste extrêmement populaire en France, qui avait commencé sa carrière, souvenez-vous, en 2014, lorsqu'il remporte le concours The Voice. Avec un score énorme. Immédiatement, il sort un premier disque. Il se retrouve en tête des meilleures ventes. Encore une fois de plus, avec Color Gitano. Et puis, toute une communauté était derrière lui. Et puis, le public s'identifie à ce jeune garçon qui est décidément fait pour faire la fête, né pour faire la fête en tout cas. Il a gardé cette cellule familiale parce que, quelle que soit sa réussite et les 5 millions d'albums qu'il a pu vendre là depuis 2014, il est resté simple, il est resté au sein de sa communauté, de sa famille, il n'a pas changé son train de vie, quels que soient les revenus qu'il a pu avoir sur ces dernières années. On ne comprend pas, on était abasourdi de cette nouvelle parce que c'est un garçon qui n'a pas d'histoire.
Voilà, Rachel, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affection autour de, bien au-delà de sa communauté, et il est vraiment adoré des Français.
J'ai l'impression que ses harmonies et sa signature, surtout sa signature vocale, sa manière d'être, fait qu'il fédère. Et c'est l'un des artistes, à mon avis, dont on a besoin aujourd'hui. J'étais très peinée, et aussi parce que, du fait de son jeune âge, il a, je ne sais pas, peut-être 27 ans, 28 ans. Mm-hmm. C'est quand même cette génération. Lui souhaiter un bon rétablissement et surtout qu'il continue de chanter.
Allez, on repartira tout à l'heure à Bordeaux vers 18h pour prendre des nouvelles de son état de santé. Mais j'aimerais que maintenant on se tourne vers Nice, où Gabriel Attal, le Premier ministre, était en visite pour voir un nouvel internat éducatif, vous savez, qui offre des séjours dits de rupture aux jeunes décrocheurs, aux primo-délinquants. Il y est allé, il y a eu un échange assez cash avec les jeunes. On fait le point avec Maxime Lavandier, puis on va se poser la question, est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher, ces internats éducatifs, pour les jeunes qui sont juste avant le seuil de la délinquance? D'abord, les explications.
Ce matin, c'est distribution d'uniformes pour Gabriel Attal. Ces 20 jeunes de 13 à 16 ans en situation de décrochage scolaire vont expérimenter l'internat éducatif mis en place dans ce lycée pendant les vacances scolaires.
Et tu as quitté le droit chemin pour toi ?
Non, je ne l'ai pas quitté, mais je dérive, j'ai envie de dire.
Tu dérives ?
Ouais.
Bah c'est bien déjà que tu le reconnaisses. Et c'est quoi par exemple ? Ça veut dire quoi de dériver ?
Je ne rentre pas à l'heure, je sors quand je veux, je ne me réveille pas.
Des dérives ou de mauvaises habitudes prises par ses élèves que les parents souhaitent gommer.
Ça intéressait autre chose que le téléphone.
Voilà. Est-ce que vous sentiez que vous aviez de plus en plus de mal peut-être à...
Ah, oui, ouais. Tout à fait.
Beaucoup sur l'écran ?
Ouais, beaucoup
sur le téléphone ?
Sur le téléphone.
Et la réponse du Premier ministre ne va pas lui plaire.
Bah c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses.
Pour Gabriel Attal, l'internat est un rempart contre la délinquance.
Il y a un problème de violence chez les jeunes. On voit une violence de plus en plus tôt, de plus en plus juvénile et manifestement, dans un certain nombre de cas, de plus en plus débridée. Je pense que l'internat, c'est une très bonne solution. Ça permet de couper un jeune de ses mauvaises fréquentations. Ça permet de redonner un cadre quand à la maison, c'est difficile d'en donner parce qu'il y a d'autres frères et sœurs, etc.
Un séjour totalement gratuit pour les familles qui durera 12 jours et que le gouvernement souhaite étendre à d'autres établissements pendant les vacances scolaires.
Alors il y a d'autres extraits où les jeunes disent « c'est ma mère qui m'a forcé à être là, je n'ai pas très envie de venir, mais je suis forcée ». Est-ce que ça peut marcher ? Alors je me tourne d'abord vers vous, Monsieur Bellad, j'imagine que vous espérez que ça puisse marcher, parce que voilà, c'est autant de jeunes qui ne rentreront pas dans la délinquance.
chaque outil qui peut nous permettre de donner une autre vision de la société et puis en ce qui nous concerne une autre vision de la police, on signe tout de suite. Ouais. Ça c'est clair, on signe tout de suite. Mais j'aimerais aussi qu'on fasse quelque chose pour les mineurs qui, eux, ont déjà passé un cap en termes de violence et que, voilà, au niveau de...
Là, c'est ceux qui sont encore récupérables.
J'ai vu le garde des Sceaux, j'aimerais que le garde des Sceaux, enfin, qu'il y ait une réponse. Il y a des peines qui existent, j'aimerais que le garde des Sceaux fasse quelque chose et qu'il y ait un suivi après, surtout que, je ne sais pas, quelques jours de... Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais parce que c'est un peu le policier qui en a marre, mais quelques jours de prison. Vous savez, quand vous avez un couteau, c'est puni d'un an d'emprisonnement, de 15 000 euros d'amende. On a eu Crépol, on a eu, même si ce n'est pas avec un couteau, on a eu Chemsedine, les affaires se multiplient, c'est toutes les semaines, voire des fois tous les deux jours. Et en fait, on ne voit pas que en fait, ça ne bouge pas, en fait. Ça ne bouge pas du tout.
Là, on est d'accord, François Pupponi, c'est de la prévention. C'est avant la répression et la punition et la sanction.
C'est terrible parce que, en fait, le gouvernement ne veut pas parler de prévention, mais en fait, ils ont raison d'en faire. Parce que, je répète, moi, je l'ai toujours dit, si on peut éviter que la jeunesse française bascule dans une partie de la jeunesse bascule dans la délinquance, il faut le faire. C'est une bonne initiative. Après, il faut savoir à qui ça s'adresse. C'est des parents qui sont volontaires, qui acceptent. C'est pas coercitif.
Il faut que les enfants acceptent aussi.
Bah, ils n'ont pas trop le choix. C'est d'ailleurs que les parents l'ont dit, ils y vont parce qu'ils sont sous la responsabilité des parents. Et c'est une bonne chose. C'est un peu le même principe que les EHPAD, les établissements mis en place par la Défense. C'est pour les gens qui sont plus âgés, mais ça fonctionne aussi. C'est avec l'uniforme, on met des règles, on se réveille le matin. Avec le...
Là, c'est pas un uniforme, c'est un jogging uniforme.
Oui, mais
là,
pareil, les EHPAD, c'est un peu pareil. Enfin, ils sont tous habillés de la même manière. Voilà. Tout ça, ça fonctionne bien. Mm-hmm. C'est pas la solution miracle, mais ça participe à une bonne solution.
Éric, vous êtes d'accord?
Moi, ce que je crains, c'est que on emploie le mot internat. Vous savez, l'internat, c'était quelque chose de très précis il y a quelques années. L'internat, c'était un endroit où on mettait des enfants très turbulents et où les règles étaient extrêmement sévères. Les punitions,
des châtiments corporels.
Alors non, mais je ne vais pas jusque là. Des punitions. Mmh. Vous travaillez. Mmh. Évidemment, il était hors de question d'avoir des téléphones. Vous êtes obligé de dire.
Ça n'existait pas à votre époque.
Mais ce que je veux dire, c'est
la mienne. Non, les téléphones existaient, on n'avait pas le droit en internat. Moi, j'étais en internat.
Voilà.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Non, mais l'internat, si vous voulez, internat, ce que je reproche à cette initiative, c'est pas un choc d'autorité. Tout ça, c'est bon à prendre. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je reproche, c'est que derrière le mot internat, derrière ce qu'on nous livre comme image, c'est-à-dire des gamins, finalement, en uniforme, quand même, voyez.
Bleu marine, quand même.
Vous voyez, ce que je crains, quand même, c'est que ce soit encore de la com. C'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat. Il n'y a pas vraiment de sanctions. Vous voyez bien que les jeunes qui sont là, ils sont venus quand même poser avec le Premier ministre.
Certains d'entre eux ne savaient pas qui c'était.
Il y a une séquence appris. D'ailleurs avec Emmanuel Macron.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, Gabriel Attal, avec tout le talent qu'il a, nous habitue plus à la com qu'à l'action. Voyez. Et d'ailleurs, les Français s'y trompent pas parce que dans les sondages, ils sont en train de dégringoler.
Oui, mais ça, tous les premiers ministres dégringolent.
Lui, il a perdu 10 ou 14 points en l'espace d'un mois. Ce que je veux dire, c'est que comme il a fait de tous les dossiers sa priorité, là, on se dit, c'est une nouvelle priorité. Mais le bon sens des Français, c'est que, à force d'avoir trop de priorités, en fait, on n'en a aucune. Alors, j'espère que ce n'est pas de la com. Tout ce qui peut renforcer l'autorité, notamment à l'école...
Regardez, on le voit.
Maintenant, je suis un peu dubitatif.
Heureusement que vous n'êtes pas tous d'accord. Louis, qui veut vraiment la parole.
Oui, absolument.
Il veut défendre les internats.
Non, mais bien sûr. Imaginez ce que je serais devenu si j'avais...
On n'imagine pas, on ne veut même pas imaginer.
Je ne sais pas si ça aurait été mieux.
Voyou, blague à part.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Eric Revel. Ça fait des années qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas de solution. Bon, pour l'instant, il y a une expérimentation. Il faut un peu, comme on dit, donner sa chance au produit. Pourquoi pas? Alors certes, c'est imparfait. C'est la première fois que ça se déroule. Bon, et à l'issue, peut-être que le retour d'expérience des 15 jours seront mauvais, mais au moins, tentons l'expérience. Le deuxième élément...
Moi, je serais intéressé de savoir si, un, ils restent tous jusqu'à la fin, déjà, et qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont appris des choses... Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant...
Mais ils ne sont pas surveillés H24, si?
Ah, d'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est que, entre guillemets, ce ne sont pas les jeunes les pires qui sont là.
Ah, mais c'est ce qu'on dit.
Ce sont ceux pour lesquels les parents leur ont dit, maintenant, c'est un ordre.
Donc, ça veut dire que les parents ont encore de l'autorité.
Ils ont encore suffisamment d'autorité pour imposer à leurs enfants d'aller en internat. Donc la question que je me pose, et c'est peut-être la nuance, on sera peut-être d'accord là-dessus, cher Eric, qu'advient-il de ceux dont les parents s'en fichent, ne connaissent même pas l'existence de l'établissement, voire connaissent l'existence, essayent de demander à leurs enfants d'y aller et les enfants ne s'y soumettent pas. Voilà. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui est dispensé concrètement. Si c'est pour leur faire le blabla des valeurs de la République et tout ça habituel qui ne leur parle pas.
C'est des cours de rattrapage scolaire. Hein.
Non. Il y a beaucoup de sport. Oui. Ce qu'on m'a expliqué, hein, c'est qu'il y a du sport, il y a des règles aussi élémentaires de vie en société. On leur apprend à dire bonjour, au revoir, enfin des choses complètement basiques.
Et on leur prend leur téléphone portable, ce qui a fait blêmir un gamin.
Mais ça m'intéresserait vraiment de savoir à l'issue, ce qu'ils ont retenu. Est-ce que vraiment ça leur permet?
Mais vous savez quoi? Vous devriez faire un reportage là-dessus, Louis.
Je devrais même aller en
retourner. Vous devriez retourner une semaine dans l'internat.
De l'internat.
Faire vie ma vie d'interne.
Exactement. Avec un uniforme.
Vous vous rappelez de cette émission?
Ça vous plairait.
Vous vous rappelez de cette émission sur TF1 Vie ma vie?
Je me souviens. Absolument.
Rachel Kahn.
Non, mais moi je trouve que on a un Premier ministre qui est conscient des enjeux et des défis. Que là, effectivement, il faut saluer cette initiative et aussi que ça se passe à Nice. On a un maire de Nice qui est toujours en pointe dans ce genre d'initiative et c'est à saluer. Après, le seul petit bémol que j'aurais, c'est peut-être qu'il est un peu trop tard pour ces jeunes. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré des internats dès l'école primaire.
Ah, carrément.
Ah oui.
Le primaire, vous savez quel âge ils ont?
Bah oui, petit.
Comme autrefois.
C'est-à-dire que, oui, dès 6-7 ans, lorsqu'on commence à apprendre et à apprendre à lire, à écrire, à compter, vous savez, c'est ce joueur d'échecs qui disait que pour apprendre, justement, ses fondamentaux, eh bien, c'était avant 12 ans. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont plus que 12 ans.
Ah, oui. Reda Bellage, oui, François, peut-être.
Oui, ça existe un peu, ces internats. Mais après, la vraie question, c'est effectivement, on sait qu'il y a des familles, moi je connaissais des cas où il y avait trois familles qui vivaient dans un trois pièces, où les enfants ne pouvaient pas faire les devoirs. Bon, dans ces cas-là, effectivement, c'est plus un soutien qu'on apporte aux familles. Ça, c'est ce qui manque.
Oui.
C'est-à-dire de permettre aux familles qui sont en difficulté, mais dont les enfants veulent s'en sortir, de ne pas basculer et d'avoir l'accès au savoir comme tout le monde. Cela, c'est important parce que quand les parents appellent au secours, la République doit être là pour dire
qu'on entend. On est entièrement d'accord.
Mais là, il y a une réponse. Parce qu'on ne peut pas dire que les parents ne sont pas responsables. Et quand ils le sont en disant, mais là, j'y arrive plus, aidez-moi, il faut répondre.
Évidemment.
Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, comme vous le disiez, eux ont basculé et il faut éviter qu'ils récidivent.
Est-ce que ça peut marcher, ça, Reda Bellage? Juste de prendre appui sur des figures d'autorité dans ces internats et remettre les gamins dans le bon chemin.
Je pense
dans le droit
donner
chemin.
Une autre vision, comme je le disais, donner une autre vision de l'autorité. Tout à l'heure, on en souriait, mais je vous assure que c'est vrai, sur les bases de dire bonjour, les jeunes aujourd'hui, comme on a accueilli dans certains quartiers, parce que bon, je pense que là, on s'oriente quand même sur des jeunes de quartiers difficiles, on n'est pas accueilli avec des bonjours. Donc je pense que la base déjà...
Le vouvoiement des gens qu'on connaît
pas. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense que ce serait bien de faire participer les forces de l'ordre avec... parce que moi, j'ai connu, quand j'étais en école primaire, des intervenants qui venaient régulièrement. J'ai des enfants, j'en ai deux qui ont plus de 18 ans et un qui est au collège. Et je sais qu'il va y avoir que 4 passages et vous avez un fonctionnaire qui va venir pour gérer une ville de 35 000 habitants où il y a plusieurs collèges et lycées. C'est ingérable. Alors qu'avant, il y avait une vraie volonté, comme on le fait pour la circulation routière. On a des unités d'éducation routière et ça fonctionne très très bien. Moi, j'espère qu'un jour, on va prioriser et faire participer même les forces de l'ordre dans ce genre d'initiative.
Vous avez raison. On va juste écouter une petite séquence entre Gabriel Attal et des jeunes où il le rappelle qu'il faut dire « Monsieur Macron » et pas « Macron ». Écoutez.
Vous en pensez quoi de Macron?
Ah bah moi je travaille avec lui donc. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Non non. Bon, en tout cas, ici tu vas apprendre plein de choses. Vous allez faire plein d'activités.
C'est pas bien.
Et puis vous allez, je suis sûr qu'à la fin, vous serez content d'être là. En arrivant, c'est sûr, c'est pas... Vous vous dites, je serais peut-être mieux ailleurs pendant mes vacances. Ben, l'idée, c'est qu'à la fin, vous ayez perçu l'utilité et l'importance d'être venu ici.
Non, mais...
Bon, on se revoit tout de suite, de toute façon.
Bon, il n'y a pas le monsieur Macron, mais bon, on voit qu'il y a une opération recadrage. Oui, François.
Moi, ce qui m'avait choqué dans le bon sens, dans les épides, les établissements de la Défense, c'est que les militaires appelaient les jeunes par leur nom, en les vouvoyant. Moi, le premier, quand j'étais maire, quand il y avait un jeune...
Je
le disais tu par son prénom. Et je lui disais, mais appelle-moi monsieur. Et c'est vrai qu'il y a aussi une manière de s'adresser aux jeunes.
Bien sûr.
Pas toujours, je ne suis pas en train de parler des délinquants. Hein. Mais voilà. Et les militaires, eux, l'avaient compris, c'était monsieur X, madame Y, et vous, le vouvoiement. Et ça instaure des règles aussi. Enfin, il faut aussi que les adultes.
Il y a une forme de distance pour créer l'autorité.
Oui, bah oui, mais c'est aussi
important. C'est pareil pour les policiers, j'imagine.
Moi, alors, je crois que c'était sur Bagneux quand j'étais en bac départemental sur Val-de-Marne, mais on allait renforcer Bagneux. Je me souviens qu'un jeune, je crois qu'il était même majeur, sur un point stup, vers un point stup en tout cas, pas connu des services de police, mais qui avait rien à se reprocher pour le coup. On a contrôlé. Je l'ai, vous voyez, il m'a dit, je cite, toi, tu te la racontes. Il a... Non mais véridique, oui. Je vous assure que c'est véridique. Il m'a dit, toi tu te la racontes. Parce que c'est vrai que des fois, pour éviter les conflits, n'en déplaise à certains, par exemple une unité locale, comme une brigade territoriale de contact, qui est là pour le lien, ou des BAC qui sont là même pour l'anticrime, mais pour que les contrôles se passent bien, les jeunes préfèrent qu'on les tutoie. Pour que ça se passe mieux. Et c'est vrai que des fois, quand vous les vous voyez, il y en a qui acceptent vraiment pas en fait.
D'accord. Mais à parfois, on vous reproche de les tutoyer aussi.
Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit.
C'est les deux arguments.
Oui, mais moi, en tout cas, je sais que j'ai toujours aimé placer cette distance parce que, voilà, pour moi, je suis rentré dans la police, pas parce que j'aimais l'autorité, mais parce que je pense que la discipline, c'est ce qui peut sauver tout le monde. Si aujourd'hui, tout le monde pouvait être discipliné, ce serait beaucoup plus simple, la société fonctionnerait beaucoup mieux.
Rachel, le tutoiement, effectivement, c'est peut-être plus facile, mais en réalité, ça n'instaure pas l'autorité, c'est évident.
Ça n'instaure pas l'autorité. Alors c'est vrai que nous, on a cette particularité dans notre langue française, parce que c'est pas forcément le cas aux États-Unis. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que de rappeler bonjour, et pas simplement bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, s'adresser. En fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a un véritable problème. Alors peut-être du fait des réseaux sociaux, de l'adresse. Qui parle, qui réceptionne, dans cette ambiance sous pseudo qu'on connaît bien malheureusement sur les réseaux sociaux, là ça instaure et ça dessine votre personnalité dans l'interaction en fait. Donc je trouve que ça c'est à rétablir chez les plus jeunes.
C'est la relation qui est à rétablir. À reconstruire. Bon, vaste chantier. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On continue à parler des enjeux de sécurité, on parlera aussi de l'antisémitisme. Il y a un maire qui a décidé de démissionner à côté de Lyon parce qu'il ne supporte plus les actes impunis contre lui. A tout de suite. Et il est pile 17h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Simon Guilin. Simon.
Le chanteur Kenji Girac, hospitalisé à Bordeaux après avoir été blessé par balle au thorax la nuit dernière. Son pronostic vital n'est pas engagé et son état de santé est actuellement stabilisé. Les circonstances de ce tir restent encore floues. Aucune hypothèse n'est donc écartée à ce stade de l'enquête. Les auditions de ses proches ont commencé cet après-midi. En pleine guerre au Moyen-Orient, le chef du renseignement militaire israélien a démissionné aujourd'hui. Aaron Aliva a assumé sa responsabilité dans l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre dernier. Et dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de porter de nouveaux coups durs au Hamas. Et puis à Marseille, un septuagénaire a été violemment agressé cette nuit dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. Après avoir demandé à des jeunes de ne pas fumer dans le hall de son immeuble, eh bien ces derniers lui auraient volé sa canne avant de le frapper violemment. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé et 3 personnes, dont 2 mineurs, ont été interpellées dans cette affaire, Laurence.
Merci Simon Guilin. Encore des mineurs, j'ai envie de dire, et d'un bel âge. Encore un acte sauvage, en fait. Voilà, on s'en prend à un vieux monsieur.
Oui, c'est...
Il n'y a pas de limite, en fait.
Non, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de règles, en fait. Il n'y a plus de frontières entre le monde, on en parlait avec les téléphones, et puis les jeux comme GTA. Il n'y a plus de frontières entre le virtuel et le réel, tout simplement. Dans cette société, on n'a plus... En tout cas, pour les jeunes. Et puis, on a l'impression que... Enfin, plus que l'impression, il y a des parents qui ont vraiment lâché, quoi. Tout simplement, qui ont lâché.
Ils ont lâché volontairement, François ?
Certains volontairement.
D'autres, voilà.
Certains ne peuvent pas faire autrement. Ils sont dépassés par les événements. Les jeunes, effectivement, à la fois vivent dans un monde virtuel et ne supportent aucune mise en cause, aucune contrainte. La moindre parole peut finir en drame. Voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention, y compris lorsqu'on voit des ados dans la rue qui font un truc qu'ils ne doivent pas faire, avant d'aller les voir pour leur expliquer de ne pas le faire, faut réfléchir à 2 fois. Parce que
vous le faisiez quand vous étiez maire.
Oui, mais...
Et aujourd'hui, vous ne le feriez peut-être pas.
Aujourd'hui, je ferai attention. Ouais. Aujourd'hui, je le faisais quand j'étais maire, parce que...
Vous les connaissiez tous.
Ouais, ils me connaissaient, je les connaissais. Bon, ok. Et c'était il y a 10 ans, donc il y a peut-être encore un peu de rapport à la hiérarchie, à l'autorité. Aujourd'hui, dans la rue... Quand je vois que je ne suis pas sûr d'intervenir, parce que je ne sais pas, enfin, ils peuvent sortir un couteau et on ne sait pas.
Ah bah je crois que vous le décommandez de déconseiller en tout cas.
Il ne faut plus.
Il ne faut plus intervenir.
Le faire. Oui, il faut appeler la police, hein, faut faire le 17, hein, y a, parce que sinon vous prenez des risques. Aujourd'hui, dans la, comme vous l'avez dit, si bien dit, il suffit que vous tombiez sur un groupe de trois individus. Il y en a un qui, il y a toujours le meneur qui va, je ne sais pas pourquoi, ce qu'il lui prend, à quoi il pense, il va s'en prendre à vous. Et puis, il y a certains, là je ne sais pas dans quel quartier exactement ça s'est passé, mais on est dans une configuration que nous policiers, on a l'habitude d'avoir. Dans un hall d'immeuble, c'est surprenant. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez eux.
Vous êtes chez eux,
oui. C'est ça. Moi, je me souviens qu'à une époque, quand la police de proximité existait, j'étais dans une... À l'époque, ça s'appelait les Îlotiers. Mm-hmm. J'étais dedans. Maintenant, les prescriptions, ils ne savent pas. En tout cas, dans un quartier, je ne dirais pas le nom, on se cachait dans le local poubelle, dans les poubelles, et on filmait. Et on faisait des procès-verbaux tous les jours. On filmait les dealers. Oui. On filmait les dealers. On a eu de la chance de jamais être opéré. On travaillait avec les élus. On travaillait avec l'OPHLM à l'époque.
Et aujourd'hui, ça serait plus possible.
On voyait ce genre de scène. Il n'y avait pas de délit. Hein. Enfin, si, il y avait de la vente de stupes, mais ça n'allait pas jusqu'aux mains où il n'y avait pas de violence. Mais en tout cas, ce qu'on voyait, c'est que les jeunes, ils venaient dans le local poubelle. Ils déféquaient sur... dans le hall d'immeuble, les dames passaient avec leurs poussettes, elles baissaient la tête, ils demandaient des pièces d'identité aux gens. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que vivent
les gens qui vivent dans ces quartiers.
Ils sont
complètement pris en otage.
On ne s'en rend pas compte.
Ouais. François, je voudrais qu'on parle d'un mot.
C'est surréaliste.
Un maire.
Alors, on a toujours essayé de légiférer pour interdire le squat des halls d'escalier. Et en fait, on n'a jamais réussi parce que c'est une partie commune. Et donc, dire on n'a pas le droit de se regrouper à plus de trois dans une cage d'escalier...
Il n'y a pas un délit qui a été créé là-dessus?
Oui, bien sûr. Mais il faut prouver que vous avez empêché la personne de passer. Donc, on a légiféré.
Bien sûr.
Mais dire interdire le regroupement d'une cage d'escalier, non. Par contre, empêcher quelqu'un de passer là, oui, c'est un délit. Là, on avait légiféré. Mais c'est extrêmement compliqué. Enfin, moi, j'ai légiféré ça plusieurs fois, mais c'est très compliqué. Parce que ce sont les parties communes des immeubles. Et ce que demandaient les policiers, c'est effectivement... Au moment, on voulait même mettre des caméras dans les parties parce qu'il y a avoir la preuve. Parce que ce qu'il faut, c'est prouver.
Ça serait très vite
parce que le témoin doit dire oui, on m'a empêché de passer et on m'a insulté. Mais bon, elle est prouvée.
Et puis vous témoignez contre ces gens-là à visage découvert.
Quand vous habitez dans l'immeuble, c'est compliqué.
Vous voyez ce que disait M. Bellage, me semble très important. C'est-à-dire que pour cette génération-là, et je partage l'idée, il n'y a plus de frontières entre le virtuel et le réel. Mais alors, puisqu'un jeune d'aujourd'hui, qui a 12, 13, 14, 15 ans, n'a plus rien à voir en termes de violence, de respect de l'autorité, avec un jeune qui avait 12, 13, 14, 15 ans dans les années 60-70, au hasard, pardonnez-moi, il faudrait peut-être regarder vraiment en face l'excuse de minorité. Parce que précisément... Mais non, mais je sais que c'est un sujet
hyper bateau, surtout.
Mais non, c'est pas bateau. Parce que dès l'instant où un gamin de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui va tuer à coups de batte de baseball, comme ça s'est passé à Grand-Synthe pour ce pauvre Philippe de 22 ans, et qui risque quoi? Qui risque quoi en réalité? On verra. Moi, je dis que si on part du principe qu'un jeune de 14-15 ans aujourd'hui, avec tout ce que ça génère de violence, de barbarie, de trafic de drogue, n'a plus rien à voir, il faut peut-être remettre en cause quelque chose qui existe depuis
déjà, la Déjà, appliquons les peines qui sont prononcées, créons des places de prison avant de changer la loi. Il n'y a pas assez de place, ni en centre éducatif fermé, ni en prison. Et ensuite, on pourra réfléchir à ça. Que les peines qui sont prononcées soient exécutées, ce serait déjà extraordinaire.
Oui, et puis que sur la prévention, on commence plus tôt.
Vous avez à quel âge vous commencez?
En tout cas, sur l'internat, les histoires d'un... Oui, moi, je pense qu'avant 10 ans...
C'est internat à la crèche, quoi.
Avez
18 mois, internat.
Vu le contexte, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de jeunes qui ont besoin d'être pris en main
Le Premier ministre a annoncé l'accueil dans les collèges de 8h à 18h. Mais dans les municipalités des quartiers les plus difficiles, on en parlait tout à l'heure par rapport aux quartiers, ça fait bien longtemps qu'on prend les gamins à 7h le matin et qu'on les lâche à 20h le soir. Parce qu'on sait très bien que parfois les familles sont défaillantes. Et qu'on les prend en charge dès le début, le matin, parce qu'on est sûr qu'ils ont un petit déjeuner, parce que sinon ils arrivent avec le ventre vide, à midi, parce que sinon ils mangent pas. Et qu'on les, alors ça peut être du sport, ça peut être du soutien scolaire, ça se fait. Après, effectivement, on les rend aux parents à 19h, 20h, en disant, gardez-les au moins la nuit, quoi. Mais effectivement, c'est déjà le cas. Parce que sinon, on sait très bien que certaines familles, malheureusement, ne peuvent pas y arriver.
Bon. On va avancer. J'aimerais qu'on parle du maire de la commune de Myon, tout près de Lyon, Claude Cohen, qui a envoyé ce week-end sa lettre de démission à la préfecture et en a le ras-le-bol, notamment après une série d'actes antisémites qui sont restés impunis. Écoutez le sujet de Corentin Alonso.
Il a été élu deux fois maire de Myon. Mais à 75 ans, Claude Cohen n'a plus envie d'exercer sa fonction. Si le rôle de maire est difficile, ce sont les attaques antisémites qui l'ont décidé à démissionner.
Avec le nom de famille que je porte, je suis systématiquement attaqué avec des propos antisémites. J'ai déposé plainte. La personne qui a été entendue, elle a été en garde à vue 2 heures. Une deuxième personne qui avait fait des dessins de moi antisémites, j'ai déposé plainte. Et puis, il a été condamné à 3 mois avec sursis. Mais ensuite, il y a eu une erreur de procédure classée sans suite.
Des insultes qui lui ont fait du mal. Mais le maire peut compter sur le soutien de ses habitants.
Tous les habitants m'ont envoyé des pages, des mails, des mots extraordinaires de soutien. Ouais. Tout le monde me dit « Non, Claude, reste. » Non, mais j'ai déjà prévu de partir. Dans ma tête, je suis déjà un peu parti.
La préfecture a entre 8 jours et 2 mois pour acter la démission du maire. Ce dernier souhaite malgré tout continuer de siéger au conseil municipal et au conseil de la métropole.
François Péponi, c'est pas simple d'être maire.
C'est très compliqué.
C'est très compliqué. Moi, et de plus en plus. Hein.
Oui,
de plus il y aura des mairies, il y aura pas de candidats, vous verrez.
Il y en aura, mais qui seront là pour leur intérêt personnel. Enfin, des gens qui vont décider de se sacrifier, parce que c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce, d'être élu pendant 6 ans pour le bien commun. On en trouve de moins en moins, parce qu'on se fait insulter par tout le monde, c'est compliqué. Et alors, ce que disait ce maire, j'ai écouté un peu tout le week-end, c'est qu'il disait, il a eu le sentiment de ne pas être soutenu ni par la préfecture, ni par la justice. Alors, il fait référence à des plaintes. Moi, ça m'est arrivé. J'étais député, j'ai été insulté en public par un responsable des réseaux islamistes local. J'ai porté plainte nominalement contre la personne. J'avais mon écharpe de député. Le lendemain, j'ai porté plainte. Et un an après, j'ai reçu une lettre du procureur me disant... L'affaire est classée sans suite car l'auteur n'a pas pu être déterminé. J'avais donné le nom. Donc dans la lettre du procureur, il y a « Vous avez porté plainte contre M. X ».
C'est parce que la justice ne veut pas passer. C'est quoi ?
Je l'ai pris. Oui, alors, donc après, les maires, et lui, il la disait, on ne porte plus plainte. Enfin, parce qu'à un moment, vous dites, la police avait fait son travail.
Et erreur de procédure, donc là, le truc...
Voilà, donc à un moment, vous dites, comme vous avez le sentiment de ne pas trop être soutenu, partez.
Vous comprenez ce ras-le-bol, le rédavelage des maires.
Oui, on constate de plus en plus ces 10 dernières années beaucoup de. Alors là, c'est pas forcément plus des violences psychologiques que verbales que physiques, mais c'est vrai qu'on constate cette image du. Nous, ma génération, on avait l'image du maire, même si j'ai beaucoup de respect pour les maires. Pour nous, c'était une des personnes les plus importantes, tout simplement. Et comme vous le dites aujourd'hui, je vais donner un exemple, excusez-moi, je vais me permettre, il y a quelques années, à Cachan, un élu du conseil municipal, enfin un maire adjoint à Cachan, avait dit en ces termes, je pensais que la police était là pour nous protéger, pas pour nous tuer. Donc,
c'est intéressant ce que vous
dites. Ça change aussi, si je puis me permettre, ça change un peu l'image en fait. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des maires aussi, des élus. Des députés qui savaient quand même faire preuve de discernement dans leurs propos et qui respectaient et qui ne faisaient pas d'amalgame concernant également les policiers.
Vous avez raison. Et les amalgames, il y en a beaucoup. Ouais.
Voilà, donc,
on va écouter ce qui s'est passé à la manif hier à Paris. Ouais. Vraiment, c'est honteux. Rachel, un tout petit mot là-dessus sur le ras-le-bol de ce maire.
Ras-le-bol de ce maire et puis surtout victime d'antisémitisme. Moi, ça me fait penser... un peu aux lois de Vichy, malheureusement. Et c'est juste pour alerter, parce qu'aujourd'hui, ce sont des lois non écrites, avec un antisémitisme ambiant. Et je rappelle que ces lois visaient à exclure les Juifs de certains métiers, de certaines fonctions, de la fonction publique notamment, mais aussi des professions libérales, avec des quotas de Juifs. Et j'ai l'impression que dans différents secteurs aujourd'hui, eh bien, on est en train d'insuffler cet antisémitisme qui n'est pas écrit, mais grosse alerte.
Mais la justice sanctionne régulièrement, évidemment, les actes.
Et heureusement.
Malheureusement, il en a besoin. Oui, un tout petit mot là-dessus.
Oui, mais un maire qui démissionne pour pression antisémite, moi j'ai l'impression que tout le monde accepte, se soumet quand même à, il y a de l'antisémitisme. C'est triste pour lui, mais et je trouve qu'en fait on laisse passer plein de choses alors que ça devrait, il y a très peu de gens en réalité qui réagissent à ça. Et moi c'est ça qui me heurte. Alors ensuite quand je regardais un tout petit peu le détail en préparant l'émission, je voyais qu'il y avait quand même, le maire a eu beaucoup de contentieux avec la préfecture sur des histoires de logements, de construction de logements.
Oui, c'est un ras-le-bol général. Voilà, alors, sur lequel
y a
se grève
aussi, je ne minimise absolument pas la question de l'antisémitisme qui doit être le déterminant dans la démission du maire, mais on voit qu'il y a aussi d'autres éléments de ras-le-bol. Et je rebondis sur ce que disait Reda Bellage tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec vous, je pense que le spectacle médiatique qu'offre un certain nombre de personnalités politiques est déplorable quand on demande ensuite de respecter l'autorité du maire, du policier. Quand vous voyez des personnalités politiques qui parlent extrêmement mal de la police, qui disent surtout que la police est un ennemi, des élus entre eux qui vocifèrent, qui en viennent quasiment aux mains, ça donne une image d'autorité qui est assez peu enviable et donc assez peu respectable.
Mais c'est une stratégie,
ça transpire dans toutes les strates de la société. Donc ça ne m'étonne pas aussi que ça participe au ras-le-bol des maires, des élus, parce que on les respecte.
Mais c'est voulu.
Bien sûr.
C'est une stratégie.
C'est faire partir les gens.
C'est le chaos. On va juste, une manifestation qui s'est faite dérouler hier à Paris contre le racisme et l'islamophobie de Barbès jusqu'à République. D'abord interdite par la préfecture de police de Paris, puis finalement autorisée par le tribunal administratif. Il y a eu beaucoup de slogans, comme j'ai pas envie de vous les, on va montrer juste les images, mais j'ai pas envie de réécouter les slogans parce que voilà, ça serait faire trop de publicité à ces gens qui ne le méritent pas. Mais Reda Bellage, on les entend, peut-être qu'on peut juste voir les images, dire urgence, la police assassine. Ça a été scandé pendant des minutes entières, sans que ça fasse réagir qui que ce soit dans ce cortège. La police assassine, mais ce qu'ils réalisent, que chaque jour la police sauve des centaines de vies dans notre pays. Ça vous révolte ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, ça nous révolte parce que déjà, en termes pénal, il faut distinguer l'homicide de l'assassinat. L'assassinat, ça dit un acte préparatoire, c'est-à-dire que le policier, quand il se lève le matin, qui a signé pour protéger la population et l'ensemble, je dis bien l'ensemble de la population, oui, ça fait mal parce que nous, ces gens-là, je pense qu'on peut rapprocher avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils oublient une chose, c'est que le policier, il ne fait pas que réprimander. Le policier, il intervient sur quand vous devez
police secours,
quand vous devez, vous avez les violences faites contre les femmes, c'est qui les primo intervenants? Et un collègue, il y a quelques semaines, qui s'est pris une balle de Glock dans le bras, Noisy-le-Grand, en allant sauver une femme qui était avec ses enfants à son domicile. Et son ex-conjoint venait en découdre. Mais ces gens-là, en fait, c'est les premiers à se battre pour les différences ou la stigmatisation. Et ils n'hésitent pas, justement, à stigmatiser la police. Mais ils oublient que quand ils veulent déposer plainte, c'est nous qui sommes là.
Mais bien sûr. Et vous ferez votre travail correctement.
Oui, on continuera, même si vous continuera à le faire. J'espère qu'à un moment, des gens vont prendre leurs responsabilités, parce que j'ai l'impression qu'aussi, l'État, certains élus ne prennent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, un député ou une association peut se permettre de dire ce qu'elle veut par rapport à la police.
C'est pas faux.
Alors que c'est d'autant plus scandaleux et dangereux que c'est fait à l'occasion d'une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Et ils disent la police assassine. Donc en fait, le message c'est la police est raciste parce que l'État est raciste, la police est islamophobe parce que la France est islamophobe et donc ils nous tuent. Voilà. C'est ça qu'ils disent. Et en fait, la stratégie derrière, c'est de désarmer la police, c'est de l'empêcher d'agir. Mais c'est voulu, et quand vous disiez qu'il y avait des députés qui étaient présents, la France Insoumise était présente à cette manifestation où, avec leur écharpe, ils entendent crier sans rien dire, la police assassine. Et la logique, c'est voilà, on désarme la police parce qu'en fait, on veut désarmer l'État et on veut prendre le pouvoir. C'est une logique pré-révolutionnaire, et pour ne pas dire pire, mais voilà, ils sont dans cette logique-là et ils iront.
C'est la stratégie de la France Insoumise. Ils veulent une sixième République, donc il faut dynamiter la cinquième. Je veux dire, c'est très clair depuis le début de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas depuis qu'il a pris la tête de la France Insoumise. Il sera d'ailleurs à 19h30 ce soir à Sciences Po pour faire campagne. Je veux dire, je ne comprends pas comment on peut faire campagne dans une enceinte. Peut-être pas universitaire, mais en tout cas scolaire. Ça a été interdit à Lille la semaine dernière. Pourquoi est-ce que ça a été autorisé à Paris, Louis Dragnet ?
Alors,
je ne comprends pas le poids de mesure.
Il y a un problème de cohérence.
On peut faire campagne comme ça dans une école.
Vis-à-vis de beaucoup de gens qui nous suivent, il y a une grande incompréhension. Pourquoi est-ce qu'à Lille, il n'a pas le droit de s'exprimer, à Sciences Po, il le peut ? Il y a des manifestations, une manifestation à Lille qui a été empêchée par la préfecture et sans doute une manifestation qu'il ferait à Paris où il aurait le droit de s'exprimer. Et en plus, je me souviens, au moment de la manifestation de Lille, le président de la République s'est exprimé et a dit qu'il était favorable à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Donc indirectement, le président lâchait un peu le préfet sur cette histoire. Et je pense qu'il fait maintenant, il faut harmonier, il faut avoir une règle.
Il faut interdire dans toutes les facs, toutes les universités.
Et je trouve que les campagnes électorales n'ont pas leur place dans les universités.
Ça paraît logique.
Non, mais que des élus viennent participer à des conférences dans les universités, évidemment, ça participe à l'éveil intellectuel, à la réflexion et même à un travail de culture générale. Mais je pense qu'on devrait sanctuariser. Il y a pendant les périodes de campagne, on ne vient pas chercher des voix dans les universités.
Rachel.
Oui, moi je trouve que même d'un point de vue symbolique, enfin, ce que veut dire l'université en latin universitas, ça veut dire ensemble, un rassemblement, c'est tous. Donc, et là on voit bien que M. Mélenchon, c'est pas vraiment, il n'est pas dans une logique de rassemblement, il n'est pas dans une logique de connaissance, il est dans une logique dogmatique à fracturer la société, à mettre les générations les unes contre les autres, à mettre les religions les unes contre les autres, à ethniciser notre pays. Et puis, par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur la question de la lutte contre le racisme et l'islamophobie, qui est devenu ce cheval de Troie pour insulter la France, insulter les Juifs, insulter la police. Et au fond, c'est plus que désarmer la police, c'est désarmer l'ensemble des institutions. Et finalement, je crois que...
Mettre à bas la République.
Je crois que finalement, symboliquement, ce qui va se passer ce soir avec ce meeting à Sciences Po, c'est le symbole de l'entrisme au sein des universités.
Évidemment, que dénonce un certain nombre de
personnes. Absolument.
Dont vous faites partie. On écoute juste Yvaine Lecoz de l'association étudiante Unie à propos de la venue de Jean-Luc Mélenchon ce soir.
Parce que la France insoumise est d'extrême gauche, est le seul parti à pouvoir faire campagne au sein des universités. Jamais on ne pourrait voir n'importe quel autre parti, que ce soit Renaissance, Les Républicains, Reconquête ou le Rassemblement National, venir faire le tour des facs, comme la France insoumise le fait actuellement, pour y faire des meetings pour les élections européennes. Aujourd'hui, ils utilisent nos universités, donc des universités qui sont payées par le contribuable, pour faire campagne pour les élections européennes. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Je ne pense pas que l'université soit un lieu de meeting politique. Les universités, on y est pour s'instruire, on y est pour apprendre, on n'y est absolument pas pour voir défiler les partis les uns après les autres, en l'occurrence, là, un seul parti, pour y faire des meetings pour les élections européennes.
Ce qui vient d'être dit est totalement vrai. C'est-à-dire, oui. Imaginez Jordan Bardella faire un meeting à Sciences Po. Mais il y aurait des cartes de CRS dans
bien
tout
sûr,
le quartier.
Mais...
Ça serait impossible. Non, mais il y a un deux poids,
oui,
deux mesures,
bien sûr,
Eric.
Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec
le début
de la déclaration
pas,
de M. Lecoz, mais pas avec la fin. Je veux dire pourquoi. Ce qui est certain, c'est et là, c'est le scandale absolu, c'est la liberté d'expression à géométrie variable vue depuis le balcon de la France insoumise, c'est que M. Mélenchon hurle lorsqu'on lui interdit d'aller faire un meeting dans l'université de Lille, mais en revanche, il prend pas la parole quand on interdit Sylviane Agazinski de prendre la parole dans une université, parce que ça déplaît à l'extrême gauche. En revanche, pardonnez-moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le plateau, qu'on découvre que les campus sont un lieu où on fait de la politique, où il y a du débat politique, ça a toujours existé. Je vous rappelle quand même que mai 68, ça démarre à l'université de Nanterre avec UNEF.
C'est là qu'est né le problème.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que autant je suis scandalisé par le fait qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable,
oui,
suivant qu'on est pour M. Mélenchon dans le camp du bien ou pas du bien. En fait, la liberté d'expression, souvent pour les trotskistes, elle est interdite à ceux qui...
À leurs opposants.
Qui n'est pas de,
qu'on désigne
qui
comme ses ennemis politiques, ouais, et qui sont dans le camp, okay, du mal. Mais pour le reste, pardonnez-moi, découvrir qu'un campus, c'est un lieu où on discute, bien sûr, de ces cours, mais on discute politique.
Ce que les Français découvrent, c'est qu'il n'y a que la gauche qui a le droit de parler. Tout le monde parle en même temps. Attendez.
Pendant les périodes électorales, sur le financement des campagnes électorales des partis politiques, interdit à une collectivité locale de mettre à disposition, ou à un public, de mettre à disposition des moyens publics pour faire campagne, sauf s'il y a une délibération. Et ça doit être accordé à tout le monde. Bon. C'est-à-dire que si on dit à l'université, il peut y avoir un débat pour les
essayez de faire ça à droite.
Tous les partis ont le droit de venir.
On en reparlera.
C'est là où le sujet est.
Ça, c'est sûr.
Moi, je serais Jordan Bardella, je demanderais l'autorisation d'aller à Sciences Po et j'attendrais la réponse. C'est là où c'est pas normal. À la fois, c'est pas tout à fait légal.
Alors, Louis, rapidement, il reste une minute.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire François Pupponi. Non, mais je pense qu'il faut poser maintenant le sujet. On ne va pas continuer. Sinon, ça va être éternel. La France insoumise va continuer de jouer avec les faiblesses du droit, essayer de voir les contrats contradictions entre les décisions administratives prises par les préfectures. Et en fait, on n'en sortira pas. Et in fine, il va se passer ce qui se passe à chaque fois. C'est qu'en fait, c'est eux qui vont se poser en victime de la République, victime de l'État, victime de la classe politique. Et c'est toujours le même sujet.
C'est eux qui organisent la censure et ils sont
disent
victimes.
Mais c'est toujours la même histoire. Et à la fin, ce sont les victimes. Enfin, c'est l'inversion des valeurs totales.
Rachel, c'est vraiment ça.
Oui, alors c'est exactement ça. Le statut, évidemment, le statut de victime, c'est un statut à choyer parce qu'il permet la victimocratie d'avoir une tribune et puis d'avoir du pouvoir, enfin de l'influence. Je pense qu'il y a quand même dans cette campagne un souci avec cette extrême gauche qui confond notoriété et popularité. C'est que pour eux, tout est bon pour être...
Tout est bon à prendre.
Tout est bon à prendre pour qu'on parle d'eux et pour...
Même en négatif. Ils pensent que ça va les faire.
Exactement. Mais après, je pense qu'il va falloir vraiment se référer à la loi et notamment au code électoral par rapport à cette...
Et tenir une règle de conduite qui sera valable pour tout le monde. Ouais. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que les internats éducatifs sont la solution miracle pour remettre dans le droit chemin une partie de la jeunesse en déshérence ? Non, bien sûr, mais c'est mieux que rien. Pour lutter contre la violence des mineurs, tout doit être tenté, car le pire serait de baisser les bras et de dire qu'on n'y peut rien et que l'État ne peut pas tout. Or, comme chacun sait, il faut tout un village pour élever un enfant. Alors, est-ce que les adolescents placés dans ces internats pendant les vacances scolaires sont ravis d'être là ? Non plus. Vous allez entendre leur réponse aux questions du Premier ministre Gabriel Attal, qui était à leur côté à Nice. Elles sont éloquentes. « Ma mère m'a forcée à être là », lui ont-ils tous quasiment rétorqué. Mais face à la sauvagerie des plus jeunes, leur perte de repères, le manque flagrant de figures d'autorité, il faut aider ceux qui sont encore rattrapables à reprendre le fil de vie déconstruite dès l'enfance. Dans notre société du chacun pour soi, il me semble clair que l'on doit savoir punir, mais que l'on doit savoir aussi éduquer. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est pile 18h avant de débattre de l'actualité. Le rappel des grands titres, le chanteur Kenji Girac est hospitalisé à Bordeaux après avoir été blessé par balle au thorax cette nuit. Son pronostic vital n'est plus engagé, son état de santé est stabilisé. Les circonstances de ce tir restent encore floues. On va rejoindre dans un instant nos envoyés spéciaux sur place à Bordeaux. Le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris en première instance. Mohamed Graieb et Chokri Chakfroud avaient été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs. Il s'agit de deux proches de l'auteur de l'attentat au camion Bélier qui avait causé, je vous le rappelle, 86 morts le 14 juillet 2016. Le gouvernement fixera de nouvelles règles à partir du 1er juillet concernant l'assurance chômage. L'objectif de ces nouvelles mesures est d'atteindre le plein emploi et de favoriser le retour au travail des chômeurs indemnisés. Le gouvernement devrait se baser sur trois leviers pour durcir les règles d'indemnisation, notamment le levier du temps de travail nécessaire pour être indemnisé. Enfin, 199e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Ohad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. On va reprendre le fil de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel qui est là. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Rachel Kahn, merci d'être avec nous.
Bonsoir Laurence.
Joseph Massescaron nous a rejoint, essayiste et consultant. Bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Toujours le policier Reda Bellage, porte-parole d'unité Île-de-France. Bonsoir Reda. François Pupponi, ancien député. Bonsoir. Et Éric Revel, journaliste. On va d'abord prendre, si vous le voulez bien, des nouvelles de l'état de santé du chanteur Kenji Girac qui a été blessé par balle ce matin très tôt, tout près de Bordeaux. Augustin Donadieu et Florian Paume, bonsoir à tous les deux. Vous êtes nos envoyés spéciaux devant le CHU de Bordeaux. La première question, c'est vraiment son état de santé. Comment va-t-il alors où on se parle, Augustin ?
Eh bien, écoutez, Laurence, pour le moment, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. C'est en tous les cas ce que nous a confié la famille de Kenji Girac, avec qui nous avons pu nous entretenir très rapidement, avec Florian Paume, sa maman et son agent, qui nous ont dit que le pronostic vital de Kenji Girac n'était plus engagé à l'heure actuelle. Il reste néanmoins hospitalisé dans cet hôpital de Haut-l'Évêque à Pessac, au sud-ouest de la cité girondine, puisque son état est quand même très sérieux. La balle n'est passée qu'à 2 cm de sa colonne vertébrale avant de ressortir par son dos. Il reste donc entre les mains des médecins et des infirmières pour au moins plusieurs jours ici au sud-ouest de Bordeaux.
Merci Augustin Donadieu. Florian Paume, juste, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de ce qui s'est passé cette nuit sur place, Augustin?
Oui, bien sûr. Il est aux alentours de 5h30 ce matin lorsque les gendarmes sont appelés pour une personne victime d'un tir d'arme à feu sur une aire de grand passage pour gens du voyage. Et ils découvrent sur place Kenji Girac blessé alors qu'une vingtaine d'individus sont là et tentent de minimiser la situation, leur indiquant que rien ne s'était passé. Ces gendarmes qui ont ensuite passé au peigne fin cette aire de grand passage pour gens du voyage, ils ont retrouvé dans un buisson une arme à feu, une 9 mm. De type américain 1911. Alors l'enquête devra déterminer si c'est cette arme qui a blessé le chanteur. Cette arme, elle est analysée à l'heure où je suis en train de vous parler. Les proches de Kenji Girac ont été entendus cet après-midi par les enquêteurs. Le chanteur, évidemment, ne l'a pas été aujourd'hui. Il le sera probablement dans les prochains jours. Et en attendant, il reste donc ici au sud-ouest de Bordeaux. Il devrait subir une batterie d'examen pour évidemment stabiliser sa santé.
Augustin, parce qu'il a vraiment frôlé la mort. Hein. La balle est passée à quelques centimètres, je crois même, de sa colonne vertébrale.
Effectivement, c'est ce qu'ont indiqué des proches qui étaient au téléphone. Et ces derniers ont effectivement précisé que la balle qui a pénétré par le thorax de Kenji Girac est ressortie dans son dos et n'est passée, selon leurs mots, qu'à 2 mm de sa colonne vertébrale. Alors on imagine évidemment les séquelles que le chanteur pourrait avoir si cette balle avait touché la colonne vertébrale. Il se pourrait qu'il soit opéré par les équipes du CHU de Bordeaux dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais ils nous l'ont dit, sa maman nous l'a dit, son agent nous l'a dit, son pronostic vital, à l'heure où l'on se parle, n'est plus engagé.
Écoutez, ça c'est au moins une bonne nouvelle. Merci Augustin Donadieu et Florian Paume pour toutes ces informations. François Pipponi, l'enquête commence, il va falloir faire la lumière sur ce qui s'est passé réellement, et on sent que ce n'est pas simple.
Non, c'est pas simple parce que l'explication qu'il a donnée visiblement rapidement, c'est « je manipulais une arme ». Généralement, quand on manipule une arme, on ne la dirige pas vers soi, parce que et la balle étant passée du thorax, donc elle a traversé de part en part. Hein. Il est miraculé, parce que ça aurait pu toucher un organe vital, le cœur, ça aurait pu lui briser la colonne vertébrale. Et donc, effectivement, après, l'enquête va être longue. Hein, enfin, on verra bien comment ça se passe. Parce que le problème aussi, souvent, avec les gens du voyage, c'est qu'ils participent peu aux enquêtes de police. Enfin, ils essaient de pas
trop. Il y a une forme d'omerta?
Oui, parce qu'ils essaient de régler les problèmes entre eux. Voilà. Et donc, il va falloir faire ça. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que le pistolet, que le revolver qui a été retrouvé soit celui-là. Bon, on verra bien. Ça va prendre un peu de temps. Ce qu'on lui souhaite, c'est un prompt rétablissement, parce qu'au-delà du fait qu'il aurait pu mourir, il peut aussi avoir des séquelles au niveau vocal. Hein. On ne sait jamais.
Pulmonaire
ou autre. Hein. Donc, y compris, sa carrière peut être en danger. Donc, voilà, on lui souhaite prompt rétablissement. Et puis après, l'enquête dira, la police et la justice diront ce qu'il en est vraiment.
Redabellat, vous êtes policier. Là, c'est les gendarmes, visiblement, qui sont en train d'investiguer. Mais voilà, on sait que ce n'est pas toujours très simple de trouver ce qui s'est réellement passé.
Oui, parce qu'il est... Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça une omerta, mais en tout cas, ils ont certains rituels, selon les gens du voyage. Même eux, je sais qu'ils ne peuvent pas... Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, par exemple, nous, quand on intervenait sur... On allait à plusieurs bacs sur un hôpital parce que... plusieurs bacs sur un hôpital parce que il fallait absolument que la personne ne décède pas dans l'hôpital. Il fallait qu'elle décède. Dans certaines communautés du genre du voyage, il faut qu'ils naissent chez eux et qu'ils décèdent chez eux.
D'accord.
Et je vous garantis que pour faire un convoi funéraire, parce qu'il existe aussi des règles en France, si la personne décède à l'hôpital, elle est placée sous la responsabilité, entre guillemets, de l'État. Et je peux vous garantir qu'on risquait, des fois, ça tournait presque à la violence urbaine. Donc, il faut, voilà, il y a toujours aussi ce rapport à la police, une espèce de déviance, de confiance entre gens du voyage et la police. Hein, ça ne vient pas de nous ou gendarmes. Mais en tout cas, oui. En tout cas, on va mettre les moyens. En général, que ce sont des personnalités, on met vraiment les moyens.
C'est parce que c'est une personnalité qui a... Bon, il y a une pression médiatique évidente, mais c'est vrai que ça va plus vite, que les enquêtes vont en général un peu plus vite quand il s'agit de gens connus. Parce que
vous avez des gens qui sont... C'est quelqu'un qui est très, très populaire. Et donc, il y a beaucoup d'attentes. Il faut que les médias et que les gens aient des réponses rapidement pour savoir, pour qualifier si vraiment c'est une tentative d'homicide, si voilà, il y a, tout est possible en fait. Il y a plusieurs pistes qui sont possibles, mais il faut avoir des réponses rapidement et il faut que les gens coopèrent. Là après, c'est un autre sujet.
Rachel Kahn, c'est quelqu'un qui est solaire, Kenji Girac. Les Français l'ont adopté. Il a été évidemment mis en lumière dans l'émission The Voice. Il fait partie des enfoirés, un pilier des enfoirés. C'est quelqu'un qui est très populaire. Très donc populaire, on a beaucoup d'inquiétudes.
Très, très populaire et avec sa singularité d'artiste. C'est-à-dire qu'il nous offre cet univers gitan flamenco et dans le même mouvement, il le mélange pour le faire partager à tous et notamment les duos avec Gims, avec Vianney. Et puis, moi, c'est cette générosité qui me marque, très engagée aussi pour les enfants défavorisés. Je sais qu'il a 27 ans et je n'ai pas du tout envie qu'il fasse partie du club des 27. Vous savez, ces artistes...
Voilà, mais son état de santé, a priori, n'inspire plus d'inquiétude. Louis Dragnel, pas d'informations complémentaires de votre part.
Je cherche, mais là, pour l'instant, on n'a rien.
Joseph Massescaron, sur cette terrible affaire...
Non, tout à fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il est solaire et sur sa générosité. Donc là, Rachel a tout dit.
Éric Revel.
Oui, c'est peut-être la face un peu commerciale, mais quelque chose qui vient de très très loin, de Django Reinhardt, de Manitas de la Plata, de Gypsy King, c'est toute cette ambiance là. Et c'est vrai que quand on écoute un thème flamenco ou gypsy, on a l'impression que ça remonte au début du monde quasiment. Enfin, on sent qu'il y a une histoire, qu'il y a une profondeur. Il incarne ça aujourd'hui. Il faut lui souhaiter un prompt rétablissement.
Voilà, espérons que tout va bien se passer. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. Dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va parler des mineurs, comment prendre en compte les mineurs, comment les empêcher de basculer dans la délinquance. Il y a cette histoire d'internat éducatif. Et on entendra aussi des témoignages absolument édifiants qui ont été recueillis par le correspondant d'Europe 1 à Montpellier, qui s'appelle Charles Lhuillier, sur les guetteurs, les dealers qui parlent au micro, qui racontent leur expérience. L'un d'entre eux a 14 ans. 14 ans. On va l'écouter dans un instant. À tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler des jeunes mineurs qui sont entrés dans la délinquance, ou en tout cas comment les empêcher de tomber dans la délinquance. Mais j'aimerais d'abord qu'on écoute des témoignages assez édifiants qui ont été recueillis par Charles Lhuillier, qui est le correspondant d'Europe 1 à Montpellier. Bonsoir Charles, vous êtes en direct avec nous depuis Montpellier précisément.
Bonsoir,
parce que
Laurent.
Vous êtes en reportage là-bas. On va écouter d'abord le premier de vos témoignages, qui est un guetteur, un jeune homme qui s'appelle Younes, qui estime lui que les opérations place nette n'ont servi à rien. On imagine bien qu'il ne va pas dire le contraire, mais c'est très intéressant que vous nous expliquiez ensuite comment vous avez recueilli ce témoignage et qui est ce jeune homme. D'abord, on écoute Younes, ce témoignage.
Moi, alors ici, mon rôle, c'est de commander les guetteurs, t'as vu. Je suis payé 150 euros par jour. J'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir, les déplacer de leur poste et les payer. D'accord. Et ils touchent 130 euros par jour. Je fais le calcul, 150 par jour, après 4000 euros par mois.
Et tu vas à l'école ou comment ça se passe?
Non, j'ai arrêté tôt l'école. Ici, comme je t'ai dit, t'as eu ta voiture, tu laisses les clés, ça bouge pas, il n'y a pas de vol.
L'opération place nette alors?
Ouais. Franchement, ça a servi à strictement rien du tout, je te dis la vérité. Ouais, eux, ils viennent, ils bloquent dans le charbon, dans le four, quoi, t'as vu? Mais en fait, nous derrière, on a des livraisons, nous, t'as vu? On n'a pas que, le point de deal, t'as vu? On a des livraisons, on envoie par colis, t'as vu, tu vois? Il n'y a pas que du surplace, quoi. Place nette, franchement, ça nous a pas fait mal, ça nous a rien fait. Place nette, ça sert à rien, franchement, strictement à rien.
Bon, alors ça, c'est ce que dit évidemment le guetteur. Évidemment, il va pas dire le contraire. On a un policier sur le plateau qui va répondre dans un instant et qui va nous dire que, évidemment, ça sert parce que ça dérange leur business. Mais Charles, comment vous avez recueilli ces témoignages? Parce que d'abord, le jeune Younes, là, dont vous nous parlez, il a quel âge? Il dit qu'il a arrêté l'école. Il a quoi? Il a moins de 18 ans, plus de 18 ans?
Il a une trentaine d'années parce qu'en fait, lui, si vous voulez, c'est un des grands du quartier, comme on dit, hein, dans ces zones. C'est-à-dire qu'il a grandi, il est né ici, dans ce quartier d'Aiglongue à Montpellier. Et au fur et à mesure, il a pris du galon. Et en prenant du galon, il a réussi de passer de guetteur à coordinateur des guetteurs. Ça veut dire que, comme il l'a dit, hein, l'interview est très explicite. Il vient le midi pour tout simplement faire l'appel hein, de ses subordonnés, c'est-à-dire les jeunes guetteurs qui ont à peu près 15 ou 16 ans. Il les place à des endroits stratégiques, donc en bas des immeubles ou à l'entrée des cités. Et puis, si vous voulez, le soir, vers minuit, hein, donc il faut bien savoir que des jeunes de 15 ou 16 ans les guetteurs sont dehors le soir jusqu'à minuit, eh bien Younes vient les chercher et vient leur donner leurs 130 euros journaliers en liquide, évidemment.
Évidemment. On va écouter un deuxième témoignage que vous avez recueilli, Charles Lhuillier. Là, c'est un guetteur de 14 ans. La voix a été modifiée, mais on voit qu'elle est extrêmement jeune. Lui qui, pareil, dit qu'il se moque de l'opération Place Net, mais surtout qu'il raconte son quotidien. C'est assez glaçant. Écoutez-le.
Ça me rapporte 100 euros par jour.
Ah oui ?
Ouais.
Et pourquoi tu fais ça ?
C'est comme ça. On est des employés. C'est un point de deal. C'est fait pour les clients, ils achètent et voilà.
Tu sais, il y a eu l'opération Place Net, là.
Ouais, elle part au Place Net, on s'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite. S'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite tous les jours, le point de deal, il est ouvert. Et nous, les guetteurs, on est fait pour ça, pour crier « Ah, quand il y a la police ».
Mais t'as quel âge, en fait ?
Moi, j'ai 14 ans, il y a des jeunes de 20 ans, des jeunes de 16 ans, voilà.
Place Net, t'en penses quoi, l'opération Place Net ?
L'opération Place Net, je vous dis, il va servir à rien parce que le point de deal sera toujours ouvert. Il y a toujours des toxicomanes qui voudraient leur dose. Et voilà, et nous, les guetteurs, tant que ça nous paye, voilà. Même dans les autres charbons, ce soit à Figueroles, à la Grappe, c'est tous les charbons vont ouvrir.
C'est quoi les charbons ?
Les charbons, c'est les terrains, c'est les points de deal. Mais qu'est-ce que vous voulez vous dire, monsieur ? Les places nettes, ça sert vraiment à rien. La police, on s'en bat les couilles d'eux, monsieur. Il n'y a que des clients cachettes, monsieur, c'est ça.
En fait, voilà. Mais quand ils viennent, vous partez ?
Ouais, quand il y a la police, ouais, on part. Et oui, c'est ça. C'est le chat et la souris. C'est comme ça, frérot.
C'est terrifiant ce que dit ce jeune garçon de 14 ans. Charles Lhuillier, comment vous avez fait ? Vous avez établi un rapport de confiance avec eux pour qu'ils vous parlent ? Évidemment, comme c'est en radio, c'était anonyme. Ça a facilité l'échange ?
Oui, alors déjà, je tiens à couper court à tout soupçon. Il n'y a pas eu d'échange d'argent. Hein, voilà, parce que je sais que parfois, ce sont des pratiques qui ont lieu. Moi, hein, pas du tout, je n'ai pas donné d'argent, je n'ai pas payé ces jeunes pour qu'ils me parlent. Non, ce qui s'est passé, c'est que c'était donc vendredi qu'a été tourné ce reportage. J'ai pu tourner à maintes reprises dans le quartier, ça a pris du temps. J'ai d'abord été voir le jeune qu'on vient d'entendre, ce jeune-là, la voix donc juvénile. Et d'abord, en fait, il m'a dit « Écoute, si tu veux me parler, il faut demander l'autorisation à Younes ». Le patron, notre patron des guetteurs, Younes, c'est celui que vous avez entendu la première fois. Et donc, à partir de là, j'ai parlé avec Younes, on a échangé, un rapport de confiance s'est installé entre nous, ça a pris environ une demi-heure. Il a fallu que Younes appelle à son tour son supérieur, qui a validé, et puis à partir de là, c'était bon, j'ai pu les interviewer. Ce dont on se rend compte en réalité, c'est que ces jeunes, ces dealers, il y a deux choses. D'abord, ils acceptent de répondre à mon micro parce qu'ils veulent fanfaronner, dire que, bien voilà, malgré l'opération Place Net, bien ils sont là. Et bien finalement, ils n'en ont que faire de ce qui s'est passé. C'est pour dire aussi qu'ils n'ont pas peur de Gérald Darmanin, des autorités. Et puis l'objectif également, plus secondaire peut-être, plus anecdotique, c'est d'afficher la réussite. Voilà, parce que dans les quartiers, on aime de manière ostentatoire afficher sa richesse quand elle est là. Et c'est comme ça, à mon avis, que j'ai pu obtenir ces témoignages vendredi dernier.
Ce que vous décrivez, Charles, c'est un quartier complètement cadenassé, complètement mis en coupe réglée par les dealers, où la police intervient sporadiquement sur Place Net, mais où ce sont les dealers qui règnent en maître, on est d'accord ?
Voilà, alors souvent c'est un terme galvaudé, mais là j'ose le dire, c'est une zone de non-droit, le quartier d'Aiglongue à Montpellier. 300 logements HLM, 1000 habitants, et c'est vrai que c'est une vie qui est finalement dictée, régentée par le trafic de drogue. À Montpellier, on n'a pas les chiffres pour Aiglongue, à Montpellier le chiffre d'affaires mensuel de la drogue c'est environ 200 000 euros, et les chiffres semblent être un petit peu sous-estimés par la préfecture. Mais véritablement, c'est vrai que pendant longtemps on a acheté une certaine paix sociale dans ces quartiers-là, on a laissé faire, et là finalement on en paye un peu les pots cassés. Donc véritablement, et les parents laissent faire, parce que quand vous avez un jeune de 14 ans qui certes ne va plus en cours, mais qui tous les jours ramène 130, 140 euros, 150 euros en liquide, eh bien évidemment, on le laisse faire, même si c'est pas, c'est un peu puni par la morale. Voilà, donc en réalité, le trafic de drogue fait vivre le quartier et finalement, le trafic de drogue a phagocyté ce quartier d'Aiglong, qui n'est pas un quartier isolé en France, malheureusement.
C'est passionnant ce que vous dites et terrifiant en même temps. Charles, un dernier mot, vous êtes sur place pour aussi rendre compte de l'affaire de la jeune Samara qui a été battue il y a un peu plus de 15 jours. Ou un peu plus, ouais, pratiquement 3 semaines, parce qu'elle voulait se vêtir à l'européenne, à l'occidentale. C'est le même quartier ou c'est un autre quartier de Montpellier?
Alors c'est un autre quartier, si vous voulez. Là, c'est le quartier de la Paillade dont vous parlez. Le quartier de la Paillade est un quartier très cosmopolite, hein, parfois en délicatesse avec la laïcité. Et c'est vrai qu'au départ, hein, la genèse de cette affaire, c'est, vous l'avez dit et vous avez raison, un problème de tenue vestimentaire de Samara. Et puis, chemin faisant, le harcèlement est devenu du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui d'ailleurs, et là j'en reviens, c'était il y a une heure, les professeurs se sont mis en grève aujourd'hui, n'ont pas assuré les cours et se sont rassemblés devant l'établissement Arthur Rimbaud pour tout simplement prononcer un discours et, je cite, « tordre le cou aux différentes interventions médiatiques qui se sont déroulées durant ces 3 dernières semaines ». Samara, de son côté, j'ai pu également rencontrer sa famille, sa grand-mère Christine, il y a une demi-heure, là, hein, elle était au tribunal, et Christine m'a affirmé que Samara n'était pas du tout en état de reprendre les cours en présentiel. C'est pour cette raison que, pour l'instant, eh bien, elle va suivre les cours à la maison.
Merci beaucoup Charles L'Huillier. Et honnêtement, vous avez fait un travail vraiment extraordinaire sur ce quartier-là. C'est une réalité qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Hein. Ça va sans doute faire réagir mes invités en plateau. Mais c'est notre rôle à nous de rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est le réel. Voilà, le réel, c'est que les opérations en place nette, c'est compliqué. Et que ce sont les dealers qui règnent sur les quartiers. Merci beaucoup Charles L'Huillier. Alors d'abord François Pipponi, puis après Reda Bellage, qui est policier, qui va vouloir réagir.
C'est une réalité. Tout le monde savait que les opérations en place nette ne seraient efficace que si c'était sur le temps long. Parce que les dealers, et moi je suis assez impressionné de la maturité du jeune de 14 ans en disant nous, il faut que ça fonctionne tous les jours. Il y a des clients.
100 euros par jour, ils ramènent
le voilà, il y a des clients qui viennent. Donc, tant qu'il y aura du business, ben, on fera du business. Donc on sait, c'est le vrai sujet aussi, c'est que s'il y a des dealers, c'est qu'il y a des acheteurs aussi. Bon.
Et on sait. Et il le dit, hein, ils auront toujours besoin de prendre leur dose des toxiques.
Ils ont c'est ce que dit le plus jeune. Et l'autre sujet, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et ce n'est pas une opération place nette qui va les empêcher de gagner beaucoup d'argent. Bah, ce gamin qui a 14 ans et qui gagne 100 euros par jour et qui doit sûrement faire vivre une partie de sa famille avec, pourquoi voulez-vous qu'il arrête comme ça du jour au lendemain? Parce que le ministre de l'Intérieur ou la police fait son travail. Donc ça va être un temps très très long et c'est le pari difficile de Gérald Darmanin parce que la lutte contre le trafic de drogue, ça va prendre des années et des années.
Bien sûr. Reda Bellage, vous êtes policier. Les opérations place nette, évidemment, ils ont beau jeu de dire que ça ne fonctionne pas. Ils disent tous les deux la même chose, le guetteur et le petit de 14 ans.
Oui,
ça les dérange, évidemment, ça dérange le trafic. Ça les dérange.
On avait vu des images, j'ai fait un Skype pour un de vos plateaux sur CNews, où dans le 78, vous aviez eu le lendemain de place nette, ou le jour même, des jeunes en scooter qui étaient sortis avec des kalachnikovs pour montrer qu'en fait c'était chez eux. Et nous, on leur a montré en fait que non, ce n'est pas chez eux et qu'en France, il n'y a pas de zone de non-droit. En tout cas, on fait tout. Pas qu'il y ait de zone de non-droit. Et je pense que, comme l'a dit le monsieur, oui, je pense que c'est. Alors qu'il faut les multiplier. Et en plus de ça, il faut que la police retourne à son cœur de métier. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
La proximité.
La proximité. Mais le problème, c'est que le policier, on le fait, on continuera à le faire. Il ne peut pas, sécuriser les lieux de culte, lutter contre les violences intrafamiliales. Faire les amendes forfaitaires majorées délictuelles pour le stup. À chaque fois, on nous fait des annonces sans nous consulter.
Ça, on vous rajoute une couche
voilà,
sur
on
le rajoute, dos.
On est devenu une police. On est une police de l'actualité. Et le problème, c'est qu'on peut pas être sur tous les fronts. Mais si on veut solutionner ça, ces gars-là, si on passe à 6, parce que la police de proximité, normalement, c'est ça. Hein. C'est vous passez à 6. Dans les quartiers de la reconquête républicaine, c'est pareil. Vous êtes à 6 en pédestre. Le collègue, il vous pose en fourgon et vous récupère de l'autre côté. À 6, il joue pas avec nous. Excusez-moi le terme, mais si on est 6. À l'époque, quand je suis rentré en 98, à 2 ou 3, on pouvait encore se balader en tenue. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Il faut être 6, minimum. Ouais, il faut être au moins 6. Minimum.
Et c'est vrai que ces quartiers-là, ce sont des sociétés dans les sociétés. Et les points sub sont gérés comme des entreprises, avec une prise de service, avec une équipe du matin, une équipe d'après-midi.
Moi, je l'ai connu à Champigny-au-Bois-l'Abbé avec une équipe qui finissait, par exemple, à 1h du matin. Et il y avait des choufs, comme on dit dans notre jargon aussi, qui avaient moins de 14 ans, largement moins. À leur prise de service, ils avaient leur petit téléphone, leur petite entrée libre. Et voilà, ils passaient leur coup de fil. Sur les points de deal où vous aviez, ils sont tellement bien organisés qu'à un moment, ils s'adaptent, ils créent les call centers. Maintenant, vous avez. Les call centers. C'est-à-dire que ils ont commencé avec. Pour les drogues dures, par exemple. Pour les drogues dures, le gars qui venait pour se piquer, excusez-moi le terme, il venait dans ce point de deal-là, il montait, il pouvait se piquer sur place, ça évitait, nous, d'interpeller l'individu avec la drogue dure, pour pouvoir. Parce que c'est comme ça qu'on remontait avant sur les dealers. C'est-à-dire que les consommateurs nous disaient voilà où t'as acheté, j'ai acheté à tel endroit, il était pris en flag de toute façon. Et là, maintenant, ils sont encore adaptés en créant les call centers, c'est-à-dire que l'acheteur, il risque moins. Le vendeur, il risque moins. Des fois, c'est rare, mais l'Uber Sheet n'est pas au courant. En général, ils sont au courant, mais ils font semblant de palette. Et puis, ils transportent qu'une petite quantité de stupes.
Toute petite, qui n'est pas.
Ils arrivent à aller à point A, à point B. Et puis, pour les livraisons, c'est beaucoup plus facile. Et pour nous, pour démanteler, c'est beaucoup plus compliqué.
Bien sûr, Joseph Massescaron.
Là où les témoignages sont vraiment. Enfin, qui ont été recueillis sont extrêmement précieux parce que ça montre vraiment, ça révèle au sens chimique du terme que. En fait, là, il n'y a pas de problème d'autorité. L'autorité est admise. Il n'y a pas de problème de hiérarchie. Oui. La hiérarchie est admise.
On l'a vu dans ce qu'a dit Charles Huillier.
Il n'y a pas de problème.
Il y a une vraie hiérarchie.
Il n'y a pas de problème non plus de travail. Il n'y a même pas de problème de responsabilité. C'est curieux. Toutes ces valeurs se trouvent là. Pourquoi ? Parce que, mais c'est ça qui est génial. Là, les deux reportages sont fabuleux pour ça. Ça montre que c'est une contre-société totale qui s'est organisée avec sa hiérarchie. Avec sa logique, avec sa droit. Quand on dit état de non-droit, bah non, pas état de non-droit. Hein. Là, il y a un droit.
Seulement, ce n'est pas le droit.
Autre droit. C'est pas le droit de la République, ce n'est pas le droit des citoyens. Et ça, ces deux témoignages sont extrêmement précieux pour ça. Parce que là, pour le coup, la discipline.
Aucun problème. Les châtiments.
Pas de problème.
Et le gamin de 14 ans, il travaille de midi à minuit.
C'est
génial. De midi à minuit.
Ces deux éléments-là sont vraiment précieux pour ça.
Rachel.
Avec l'économie. Parallèle.
Bah oui, parce que ce qui ramène à
le cœur, c'est l'économie parallèle avec une jeunesse aussi qui n'accepte plus d'avoir des frustrations et donc qui est focalisée sur l'argent et combien elle va se faire par jour.
Louis Dragnel, formidable travail du reporter d'Europe 1. Encore une fois, on n'a pas envie d'entendre ça. Ça dérange. Hein.
Ça dérange, mais c'est la
réalité.
Et en même temps, je trouve que c'est un éclairage extrêmement intéressant. C'est même plus qu'un éclairage, c'est-à-dire que c'est la réalité à l'état brut, avec des témoignages d'acteurs qui vous expliquent. D'ailleurs, je rejoins tout à fait ce que dit Joseph Massescaron, c'est que leurs propos sont extrêmement clairs, tout est structuré, il n'y a pas d'ambiguïté. D'ailleurs, le discours est assez simple de la
avec
part
une
des,
grande maturité.
Des,
une grande maturité à 14 ans.
Une conscience de l'écosystème, de la menace que représentent les policiers pour eux. Moi, à chaque fois, la question que je me pose quand j'entends ça, et particulièrement ce reportage-là de Charles Huillier tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer à des jeunes qui gagnent cette somme-là.
100 euros en liquide par jour.
Ils gagneront jamais ça dans la vraie vie. Comment ? Non mais il y a très peu de chances pour qu'ils gagnent ça ou plus que ça. Donc comment est-ce qu'on réussit à convaincre des jeunes de sortir de cet engrenage-là, alors que de toute façon, on n'a pas à leur offrir une somme d'argent plus importante. Ouais. Alors évidemment, il n'y a pas que l'argent.
Oui.
Et puis on oublie juste la sanction éventuelle, parce que tout y est.
François Pupponi.
La sanction, bien sûr. Elle est rapide et radicale.
Et ils savent qu'ils vont soit terminer, soit ils vont mourir plus jeunes, soit ils termineront en prison. Dans les deux cas, c'est une fatalité, mais ça ne les dissuade pas pour autant.
Ce qui est stupéfiant aussi,
j'ai trouvé dans ces reportages magnifiques,
c'est le mot.
Oui. C'est le mode de management. Vous voyez, dans les entreprises normales, on essaie d'avoir un management plus participatif. Vous voyez, et là, il y a un respect, RH.
Ah oui.
Des ressources humaines. Vous voyez, de la façon dont cette entreprise de délinquants est géré, qui est absolument stupéfiant. Oui, il y a le respect de l'autorité, mais il y a un mode de management qui n'est même plus appliqué dans les entreprises qui ont pignon sur rue.
C'est pyramidal, hein. Il y a le chef et il y a tout en dessous.
Si on respecte pas la règle, on n'est pas convoqué chez le DRH pour un entretien d'embauche. De sanction.
On n'est pas licencié. Le licenciement, il est radical.
Joseph, un dernier mot. Joseph Massescaron. Mais c'est incroyablement instructif ce qu'on a entendu. Et le travail de Charles Huillier est extraordinaire. Oui, vous voulez dire un dernier mot?
Je suis vraiment sensible à ce que je viens d'entendre. Vraiment, parce qu'il y a tout dedans. Il y a tous les éléments de compréhension dedans. C'est-à-dire que on ne peut pas entendre, après ce type de témoignage, le fait que l'autorité pose un problème, la discipline pose un problème, la hiérarchie pose un problème.
C'est vrai.
On ne peut
plus
l'entendre.
Vous dire autre chose. On parlera de la violence des mineurs dans un instant. On écoutera Gabriel Attal parler des internats éducatifs. C'est vrai qu'il faut tenter ça. Il faut tenter ça, parce que sinon, on les laisse entre les mains des dealers. D'abord, le rappel de l'actualité, Simon Guillain, 18h31 sur CNews Europe 1.
Nouvelle interpellation dans l'enquête sur la mort de Philippe Kopmann à Grande-Synthe dans le Nord. Un mineur de 15 ans a été placé en garde à vue aujourd'hui. Il s'agit du cousin de l'un des deux individus mis en examen dans cette enquête. Cet adolescent de 15 ans avait été violemment agressé ce week-end. À Marseille, un septuagénaire a été grièvement blessé cette nuit dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. Après avoir demandé à des jeunes de ne pas fumer dans le hall de son immeuble, eh bien ces derniers lui auraient volé sa canne avant de le frapper violemment. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. Trois personnes, dont deux mineurs, ont été interpellées dans cette affaire. Et puis les débats ont commencé au procès pénal historique de Donald Trump à New York. Après une semaine délicate avec la sélection des 12 jurés, eh bien les procureurs vont désormais présenter les chefs d'accusation au jury. L'ancien président américain est jugé dans une affaire de paiement dissimulé visant à acheter le silence d'une ancienne star du X. Un procès qui intervient donc à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle américaine.
Merci Simon Guillain. Reda Mellad, je voulais nous parler de ce qui s'est passé samedi à Paris. Il y avait une cérémonie et une manifestation en hommage aux victimes de l'incendie de la rue de Charonne à Paris, dans laquelle trois hommes avaient trouvé la mort. La communauté afghane était très présente, puisque une des victimes était de nationalité afghane. Il y avait 200 personnes dans le cortège, et puis la situation a dégénéré en fin de cortège. Il y a eu du mobilier urbain de cassé, des commerces, des personnes interpellées, et avec des forces de police évidemment qui ont dû intervenir. Vous dites en fait on peut pas manifester comme ça, non, et que risque-t-il ?
Je pense que c'est fini en fait. Je pense qu'à partir du moment où vous avez un sujet, certaines communautés, certains partis politiques en France, comme on l'a vu le 23 septembre, à partir du moment où le 23 septembre, vous voyez, on reproche à un véhicule de police, je vais rappeler les faits, une voiture de police qui avait été attaquée par des Black Blocs en marge d'une manifestation contre les soi-disant violences policières. Et vous aviez une collègue féminine qui avait été blessée et ainsi que deux autres collègues. Ils ont défoncé la voiture de police. On a reproché, la première chose que certains médias ont reproché, c'est qu'un de mes collègues sorte son arme. On a réussi à extirper le véhicule de police grâce à la BRAVEM, qui n'est que d'ailleurs veut supprimer aussi la LFI. Et au final, quand c'est difficile de ne pas donner de mots, mais ces gens issus de la communauté afghane voient ces images et qu'aujourd'hui, ces jeunes-là qui ont attaqué ces policiers n'ont toujours pas été condamnés, même les majeurs.
Ils se disent qu'ils peuvent tout casser.
Oui, bien sûr, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Et on constate que même nous, moi j'ai fait chaque manifestation sur la réforme des retraites, alors que bon, je ne pense pas que les Black Blocs soient touchés ou concernés
par les retraites, c'est sûr, non.
Ni de certains radicaux de gauche, c'était quasiment à chaque fois des violences urbaines à la fin.
Et les policiers au milieu, comme prenaient plein la figure.
Exactement.
Donc toujours, François Pipponi.
Le problème avec un certain nombre de communautés, c'est vrai avec la communauté afghane, c'est vrai aussi avec la communauté kurde, pour différentes raisons, c'est que c'est quand même des peuples qui sont habitués à se battre, qui vivent avec ça depuis toujours. Et ils tapent d'abord, ils discutent après. Et c'est extrêmement violent. Et le problème, c'est qu'ils reproduisent chez nous, en France, leur mode de fonctionnement. Et sincèrement, il faut qu'on se plaise. J'avais assisté à des bagarres.
Ça vous choque, Reda ?
C'est une réalité.
Je suis issu de l'immigration, de la diversité, d'origine marocaine. Je respecte les règles au Maroc.
Du pays dans lequel vous êtes.
Mes parents respectaient les règles en France. Excusez-moi, mais je pense que si vous faites ça en Afghanistan... Je pense que excusez-moi mais faut mettre l'église au milieu du village. En France, on peut se permettre. Il y a plus de lignes rouges dans la liberté d'expression en fait.
Vous avez raison. Un dernier mot, François.
Il y a aussi des pratiques culturelles de certaines communautés qui sont par leur histoire extrêmement violente et qui reproduisent ici. Voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils s'en sont pris à tout le quartier parce que. Ils n'ont peut-être pas eu la réponse qu'ils voulaient, ce qui n'excuse rien. Mais voilà. Et malheureusement, ça risque de se répéter de plus en plus.
Allez, petite pause. Merci beaucoup, Reda Mellad, d'être venu. On continue. On accueillera la maire d'Aubervilliers, Karine Franklet, à propos des internats éducatifs. Comment est-ce qu'on peut empêcher les jeunes de tomber dans la délinquance ? À tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Karine Franklin, notre invitée, bonsoir. Vous êtes la maire d'Aubervilliers. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre plateau de Punchline. On va parler des internats éducatifs pour les jeunes, pour empêcher ces jeunes de tomber dans la délinquance. Gabriel Attal était ce matin à Nice, où il y a un internat éducatif pendant les vacances scolaires qui a fonctionné. Il a fait une grande discussion avec les jeunes. On va écouter des extraits, parce que c'est pareil comme quand tout à l'heure on écoutait les jeunes dealers du quartier de Montpellier. Le réel, évidemment, on le prend souvent de pleine face. Mais voilà, c'était intéressant d'entendre le Premier ministre qui est très moteur sur ce genre de sujet pour tenter d'empêcher cet engrenage de la violence. Demander aux jeunes, mais alors, pourquoi vous êtes là? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cet internat? Écoutez les réponses entre Gabriel Attal et les jeunes.
Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non, c'est rassurant. Voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait c'est peut-être pas utile pour vous. Non, donc pas content d'être là, mais là quand même. Parce que c'est vos parents qui vous ont dit il faut y aller. C'est ça? Qui veut témoigner? Vas-y.
Ma mère, elle m'a forcé, c'est tout.
Elle t'a forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer?
Elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
D'accord.
En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il n'y a rien.
Et pourquoi tu voulais pas? Pourquoi tu voulais pas, toi?
Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout.
Dehors? Et pour faire quoi dehors?
Je sais pas, sortir avec mes collègues, manger dehors et tout.
D'accord. Bon, mais ici, tu vas être avec d'autres jeunes. Toi, comment ça s'est fait pour toi ici?
Non, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé. Elle m'a forcé. Elle m'a dit que c'était bien. Et je vois que c'est pas bien, là.
C'est soit je vais au bled les 2 mois de vacances, ou sinon, eh ben, je vais les 2 semaines ici. Et du coup, je préférais choisir ici, mais ça se fait pas. Elle m'a dit que j'allais redevenir dans le droit chemin, mais...
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quitté le droit chemin pour toi?
Non, je l'ai pas quitté, mais je dérive, j'ai envie de dire. Je rentre pas à l'heure, je sors quand je veux, je me réveille pas.
Là aussi, c'est flagrant ce qu'on entend. Les jeunes qui disent bon, c'est ma mère qui m'a forcé, c'est pas bien du tout. En même temps, voilà, c'était ou soit je partais 2 mois au bled, soit je faisais une semaine ici. Donc en réalité, ils n'ont pas le choix. Madame le maire, comment est-ce que vous jugez ça? Est-ce que ça peut fonctionner ou pas?
Mais alors ça, j'ai envie de dire, ça a déjà fonctionné. Moi, je regrette qu'on ait pu abandonner en 2005 les EPID qui avaient été mis en place par Jean-Louis Borloo.
Sous l'égide militaire, là, c'était plutôt des encadrements militaires.
Structurant, bienveillant, avec de la réinsertion via l'entreprise. Donc on est sur des modèles où, à des moments, on a des jeunes qui dérivent, on les met dans une structure. Ça pose la question, là, le reportage avant tout. Et là aussi, dans ces cas-là, on aurait, les collectivités, un rôle à jouer du repérage. Mmh. Et de la mobilisation et de la motivation des jeunes, parce que si les jeunes y vont juste parce que leurs parents l'ont dit, le bled, ça fonctionnera pas. Alors que si vraiment on s'appuie sur les établissements scolaires, alors après c'est souvent des jeunes qui sont en décrochage, mais donc sur tout le maillage qu'on peut avoir aussi dans les municipalités, faire vraiment un travail de repérage, de ciblage, ça peut fonctionner.
Je pense que
c'est une très bonne mesure.
Moi, je trouve que c'est une piste, Rachel Kahn. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors là, ils disent tous ma mère m'a forcé, c'était ça. Et d'ailleurs, prennent le téléphone portable, donc ils sont décomposés, les gamins.
Ils disent ça.
Alors, vous n'êtes pas Rachel Kahn, a priori. Elle est juste à côté de vous. Rachel, je vous en prie. Allez-y, oui. C'est Louis, vous parlerez.
Non, mais moi, je trouve qu'effectivement, là, le Premier ministre, et en plus, il est allé à ce déplacement. Avec plusieurs ministres, et je trouve que c'est assez fort dans cette volonté interministérielle.
Le garde des Sceaux rigole beaucoup, hein.
Voilà. Et je trouve que c'est une très bonne initiative, notamment parce que j'ai le sentiment que il y a une pluralité. Ils vont faire du sport, ils vont avoir des enseignements.
Ils ont un uniforme jogging bleu, bleu, blanc, rouge. Hein.
Voilà, très bien. Je pense que tout le monde est conscient à la fois des enjeux et des défis. Juste, moi, je me pose la question de l'âge. Moi, j'aurais bien aimé que ce genre d'internat puisse être mis en place...
Avant le collège, donc.
Oui, en même temps qu'on apprend vraiment les savoirs...
Là, c'est que pendant les vacances scolaires, hein, voilà, on est d'accord.
Et oui, tout à fait.
Plutôt que de les laisser, effectivement, à l'abandon 15 jours.
Ça, c'est très bien, mais je pense qu'il va falloir, à mon avis... sur certains territoires, mettre en généraliser peut-être.
Ouais. Éric Revel, c'est intéressant.
Moi, je suis un peu plus dubitatif parce que je suis habitué à la communication de Gabriel Attal, qui est parfois pas suivi d'action. Et en fait, quand vous regardez l'image précédente, il y a une part de communication. Vous allez voir, parce qu'en fait, vous voyez le
garde des Sceaux
avec Christian Estrosi qui essaie de se placer sur la photo. On voit aussi Charles-Ange Génézy, qui est le patron du département. Et si vous regardez bien, vous avez le garde des Sceaux qui repousse Estrosi pour pas qu'il soit sur.
D'accord,
sur la
mais
photo.
Sur le fond, Éric.
Alors, sur le fond, je vais vous dire.
On entend ce qu'ils disent, les gamins.
Bon, très bien. Louis Naragnel a toujours cette formule, laissons la chance au produit. Bon, très bien. Mais où il y a quand même quelque chose qui m'inspire de l'espoir, c'est que quand ces gamins disent ma mère m'a forcé, ben ça prouve que la mère a encore de l'autorité pour obliger son gamin à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire.
Je suis d'accord.
Et ça, bon. Si on doit trouver un peu d'espoir dans toutes ces difficultés, c'est plutôt positif.
Et ce sont des femmes qui ont l'autorité sur leurs enfants. Louis de Ragnel.
Tout à fait d'accord avec vous.
Louis de Ragnel.
Mais vous avez raison. Moi, je trouve que c'est positif de voir que, effectivement, ceux qui disent c'est ma mère qui m'a contraint, ça veut dire que les parents ont encore de l'autorité et ils considèrent surtout que l'initiative peut être profitable à leur enfant. De ce point de vue-là, c'est positif. Moi, la question que je me pose, c'est quand bien même tous ceux qui sont en voie de décrochage seraient pris en charge dans le cadre des vacances scolaires, dans des internats de ce type. Bon, c'est très bien, mais qu'advient-il de tous ceux dont les parents se fichent complètement de savoir où sont leurs enfants ?
Là, c'est une expérimentation.
Les enfants qui ne veulent pas y aller, tout simplement, et pour lesquels les parents n'ont aucune
autorité. Qui s'en iront au premier
voilà,
jour.
Globalement, c'est positif. Ouais. Attendons de voir les résultats.
Ou ceux dont les enfants rapportent quelques centaines d'euros par jour sur le trafic
exactement.
De drogue.
Ouais. Exactement. Avant. Et ensuite, attendons de voir aussi.
Attendez, pas tous en même temps. Louis, vous avez terminé ?
Dispenser. Qu'est-ce qu'on enseigne exactement à ces enfants ? Le sport, c'est très bien, qu'on les fasse se lever le matin, qu'on leur dise, leur apprenne à dire bonjour et au revoir. C'est encore une fois très bien. Ensuite, voilà, pendant 15 jours, il faut quand même occuper les journées.
Il faudrait avoir une petite formation.
Oui, il y a des éléments.
Joseph, passez le carreau, ensuite François.
Il y a des éléments qui sont donnés. Par exemple, atelier de déconstruction des fake news. Bon, question sur la santé sexuelle. Pourquoi pas ? C'est important, bien sûr. Improvisation théâtrale. Pourquoi pas ? Enfin, voilà. Mais de toute façon, au moins que c'est quelque chose qui existe, c'est une initiative.
Je suis d'accord.
Et quand je vois ça, je me dis, là toujours, on va rester sur laissons la on aurait dû laisser la chance au produit, parce que franchement, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale,
oui, on aurait dû.
Non, mais ça, je suis désolé. Qu'il s'agisse de ça, qu'il s'agisse du reste, qu'il s'agisse de l'abaïa,
de la laïcité, il en a parlé.
De la laïcité,
aussi.
L'abaïa. Ou maintenant, est-ce qu'on parle encore de l'abaïa aujourd'hui ?
Non, mais il l'a dit. Il a répondu à Thomas Bonnet.
La réponse est non. Donc, il a fait un certain nombre de choses et. Comme ministre de l'Éducation nationale, voilà. Seulement, comme on ne prend pas assez en compte l'Éducation nationale, on ne prend pas assez en compte, on ne considère pas qu'il puisse y avoir, sous un cinquième République, d'ailleurs c'est le problème, un grand ministre de l'Éducation nationale, comme il y a eu dans les républiques précédentes. Voilà, c'est ça le problème. Et j'ai dressé l'oreille évidemment à ce que disait Mme la maire, Mme Franclet, lorsqu'elle a parlé de Jean-Louis Borloo, parce que ça aussi, pardon, on ne peut pas parler de Jean-Louis Borloo sans parler de cette occasion ratée total, qui est dû à une seule personne, à M. Emmanuel Macron.
Alors, François Pupponi.
Juste, moi, je pense que c'est une bonne chose, il faut le faire, ça peut vraiment rendre service. Mais Mme le maire a posé la bonne question. Si localement, il n'y a pas des cellules entre l'État, l'éducation nationale et les collectivités locales pour repérer les familles et dire, ça serait bien que telle famille elle y aille. Et après, il faut savoir qui va convoquer la famille pour dire, on vous conseille d'eux. Parce que là, c'est des gens qui sont volontaires. Tant mieux, il faut le faire. Mais il y a ceux qui ne sont pas volontaires, qui ne savent pas. Et je pense, pour le coup, c'est localement que ça doit se passer. Et bon, moi, pour avoir été maire, mais Mme le maire pourra le confirmer, dans une ville, y compris comme Aubervilliers, on sait globalement qui fait quoi. Et on est capable de dire, ceux-là, je pense qu'ils devraient y aller. Bon. Après, il faut les convaincre. Bon. Et s'il n'y a pas cette structure locale, ça sera des très bonnes choses, mais pour des gens volontaires.
Bien sûr.
Il faut convaincre les autres.
Madame Franglais, ça pourrait marcher dans votre ville, à Aubervilliers ?
Mais ça pourrait fonctionner. Et moi, je lance un appel. Nous, on est un territoire, on a beaucoup de fragilité, on a aussi beaucoup de potentiel et surtout, on est toujours
Seine-Saint-Denis, hein.
En Seine-Saint-Denis. Mm-hmm. Et moi, je serais tout à fait partante pour pouvoir...
Il y a des places de libre dans les internats de votre ville ou pas ?
Alors, on a peu de structures d'internats parce qu'on est une petite couronne sur un réseau très dense, mais si Aubervilliers peut participer au dispositif, et je pense aussi que dans nos territoires, il faut aussi apprendre aux jeunes de quitter le quartier, de décloisonner, donc...
Et ça pourrait sortir un certain nombre de jeunes de la nasse dans laquelle ils sont dans leur quartier, vous pensez ? À terme,
déjà dans une démarche proactive et de se dire aussi si on les repère bien et s'il y a un suivi efficace derrière, ça peut être très efficace. Et là où je vous rejoins, madame, je pense que sur l'âge
Moi, je pense que peut-être en école élémentaire, mais sixième, moi, je pense qu'il faut cibler la tranche 6e, 5e pour que ce soit efficace.
Que c'est là que ça dévisse ?
Avant que ça, vraiment qu'il tombe dans une forme de prédélinquance un peu plus difficile. Moi, je pense que c'est
sur un niveau plus jeune. Et ça serait cohérent peut-être avec justement les responsabilités d'une municipalité. Mm-hmm. CM2, passage 6e.
Mm-hmm. Voilà. On a la vue sur tous, voilà, même ceux qui sont dans le.
D'accord.
Et c'est vraiment dans cette catégorie-là des 6e, 5e que ça dévisse, Madame Franclet, que
c'est là où ils sont tentés. L'ancienne principale de collège qui vous le dit. Hein, j'étais principale de collège pendant 3 ans à Saint-Ouen et on voyait bien l'été entre la 5e et la 4e. Il y avait vraiment
les 2 mois d'inactivité étaient un désastre.
Et je pense que c'est vraiment et on le voit de toute façon, on peut le repérer si on s'appuie sur les écoles, sur les parents, sur le tissu associatif. Les premiers signes de décrochage et de prédélinquance, on les voit tout de suite.
Il y a trop de vacances scolaires selon vous ?
Il y a trop de vacances
scolaires.
C'est
la question qui fâche les profs en général.
Non, alors ça fâche les profs, mais ça fâche aussi les lobbies du tourisme.
Mais c'est beaucoup de mois.
Ça peut être long, même si on est dans une municipalité où on offre beaucoup de choses entre ce qui est les centres de loisirs, les festivités d'été. C'est vrai que 2 mois, c'est long.
Mm-hmm, absolument. Joseph Massescaron, vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon, on avance ?
Non, c'est bon, on avance.
C'est bon, on avance. Alors, on va continuer à évoquer ces internats qu'a voulu mettre en lumière Gabriel Attal. Il a aussi répondu, je vous le disais, à une question sur la laïcité qui lui a été posée par Thomas Bonnet. Écoutez la réponse sur le fait qu'il est attaché à faire comprendre la laïcité aux jeunes.
Je suis très attaché à la laïcité. Et attaché aussi à expliquer, faire comprendre à nos jeunes, qui parfois ne le mesurent pas, ce qu'est la laïcité. Que la laïcité, c'est une liberté. La laïcité, c'est ce qui permet de se forger une conviction. On le voit qu'il y a des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à tester en permanence notre résistance et notre capacité à faire respecter la laïcité. Ils cherchent à pousser des jeunes à faire une forme de prosélytisme religieux au sein de leur établissement scolaire. Ce qui m'a amené en tant que ministre de l'Éducation nationale à prendre une décision que j'assume d'interdire le port de tenues religieuses, l'abaya et le camis, interdiction qui est respectée. Il n'y a plus de port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires. Donc comment est-ce qu'on fait respecter la laïcité ? D'abord l'éducation, ensuite le soutien à nos personnels et enfin les sanctions. Et j'assume totalement les mots qui ont été les miens sur l'entrisme. Il faudrait être aveugle ou de très mauvaise foi pour ne pas le constater. Ce sont nos personnels eux-mêmes qui nous le disent régulièrement.
Gabriel Attal qui avait même parlé de charia, Madame le maire d'Aubervilliers. Il avait dit l'entrisme et la charia qui tentent d'être imposées comme ça.
Il a raison et c'est des sujets où je trouve là on est, là, je dis on parce que je parle encore en tant qu'ancienne chef d'établissement. Et moi je peux vous dire qu'en 2015, je dirigeais un lycée professionnel cette fois-ci au 4 chemins Aubervilliers. Mm-hmm. Et les mots soutien, sanction, on se sentait en tant que chef d'établissement bien seul bien face seul. À des phénomènes compliqués. Mm-hmm. Et finalement, ce qu'il faut, et je pense que tous les chefs d'établissement le réclamaient, c'est une loi claire qui dit vraiment les choses,
qui interdit,
voilà. Et ne pas oublier que la laïcité, c'est avant tout la liberté.
Bien sûr.
On peut toujours dire, il fallait le dire avant. On peut toujours dire les actes manquent. On peut toujours dire ça. Mais le fait que Gabriel Attal dise les choses aussi précisément est quand même, qu'on le veuille ou pas, un atout majeur.
Absolument. Rachel, vous voulez dire un mot rapidement ?
Oui, moi je suis
la fin de l'émission.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire et je trouve que dans son expression, et effectivement lorsqu'il était ministre de l'Éducation, finalement il incarne la laïcité pas comme une liberté, mais encore plus fortement.
Comme une valeur.
Quand il dit comment on fait pour faire respecter la laïcité, c'est-à-dire qu'il y a l'idée, il faut de la sanction. Mm. Il pourrait dire aussi comment on fait pour aimer la laïcité, pour en avoir envie d'aller.
Pour la faire
comment
comprendre.
On fait pour la promouvoir. Voilà. Mm. Je pense que ce discours-là, c'est pas le même non plus.
Bien sûr.
Il faut la respecter, mais pour la respecter, faut la connaître et
l'aimer. Madame Franklin, j'ai une dernière question à vous poser. Non, attendez, j'ai une dernière question à poser, Madame Franklin, avant la fin de l'émission, à propos du vol, la vente de cigarettes à la sauvette. Il y avait une réunion intercommunale. C'est un vrai phénomène. La vente à la sauvette de cigarettes.
Un vrai phénomène qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années sur tous les secteurs gares et surtout à Aubervilliers, Pantin, Quatre Chemins. Un vrai fléau parce que ça crée aussi un sentiment d'insécurité. Il y a des agressions, il y a des rixes. Et effectivement, il y avait un rendez-vous intercommunal auquel j'ai souhaité ne pas participer, même si je dénonce ce phénomène parce que je trouve que sur ces phénomènes-là, C'est pas en bloquant, en étant à 10 maires à bloquer un carrefour qu'on va trouver des solutions. Moi, je pense que quand on est élu, on ne rajoute pas de la nuisance aux nuisances, mais on la combat et qu'il faut être dans une démarche de recherche de solutions, de partenariat entre la police nationale, la police municipale. Donc, je me suis dissociée sur la forme, mais pas sur le fond.
Mais c'est vraiment important, les cigarettes à la sauvette ?
Ah oui, c'est des milliards d'euros.
C'est des milliards d'euros.
Bah, il suffit d'en parler à tous les vendeurs de tabac officiels. C'est une catastrophe.
C'est une vraie menace.
C'est 25 et 30% du chiffre d'affaires du tabac qui disparaît.
Et pour l'État, c'est beaucoup
et pour l'État, c'est une perte de recettes.
D'accord. Et c'est surtout très dangereux pour la santé, quoi.
C'est une économie parallèle, des nuisances, et pas de sanctions, très peu par rapport à la drogue.
Parallèle au trafic de stupéfiants, en fait, c'est ça.
C'est deux choses qui sont complètement... Mais nous, à Aubervilliers, on est sur un véritable fléau, et c'est à la fois des rixes entre les différents vendeurs sauvettes pour des conquêtes de territoire, c'est les riverains qui sont agressés, ou c'est même le sentiment d'insécurité que ça peut procurer, et puis aussi énormément de dégradation du mobilier urbain, qu'ils cachent, voilà, donc c'est...
Et des problèmes de santé publique, parce que je ne sais pas trop...
Et de santé publique, c'est ce que je disais. Oui, parce qu'avec des produits qui ont traîné, bon bref. En tout cas, merci d'être venu nous faire part de votre expérience d'élu de terrain, et donc d'enseignante et de principale de collège. Merci à vous tous d'avoir participé à Punchline dans un instant Europe 1 Soir, et Face à l'Info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.